Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, c'est l'épisode 77. J'ai pas dit c'est parti. Non, j'avais pas envie de dire c'est parti cette fois.
C'est parti.
C'est pour varier en fait, tu sais. Parce que si je dis toujours la même phrase, c'est pas rigolo. Ça va, Daz?
Ça va très bien, toi?
Bah écoute, ça va bien.
Ouais.
Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans DLT.
Oui, bienvenue dans le podcast des passionnés de musique.
Absolument. On se retrouve un mercredi sur deux avec des invités de qualité. On parle de musique, l'univers, blablabla. Ils connaissent tout ça à peu près.
Mais aujourd'hui, parce que la dernière fois, c'était vraiment quelqu'un qui avait compté dans l'histoire de la musique contemporaine.
Ah, Wally Badarou, c'était du lourd.
Voilà. Est-ce qu'on a encore un artiste aujourd'hui?
Alors non. On va, c'est un artiste
dans sa partie peut-être.
Alors il est musicien, mais c'est pas que pour ça qu'on le reçoit. C'est parce qu'on est avec Thomas Legon. Salut Thomas.
Salut.
Thomas. Ça va?
Ça va. Merci.
Thomas, il est sociologue d'Az.
Enfin, on va
parler sciences sociales, des choses un peu de matière là dans cette émission.
Le diabolo, les cracheurs de flammes, ça on connaît les mecs.
Les bolasses,
exactement.
Bien sûr.
Non, et Thomas, il bosse notamment autour des pratiques culturelles et il s'intéresse beaucoup à la musique. Il est donc, tu es musicien toi-même. Je vais le présenter, mais Daz, juste avant, il faut un truc.
Oui.
Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens, tu sais, ceux qui apprécient DLT, que ce soit sur YouTube, que ce soit un podcast audio, ils doivent faire un truc, Daz.
Mais bien sûr.
Et on le rappelle pas assez souvent.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Ils doivent acheter chez Thomas? Non.
Non. Aussi.
Oui. Non, ils doivent évidemment s'abonner.
Mais absolument.
Sur tous les réseaux possibles.
Et tu vois, on le dit pas assez, ça.
C'est vrai?
Ouais.
La cloche, tout ça?
Ouais, la cloche, tout ça. Alors, sur YouTube, évidemment, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Ça aide, en fait, à monter un peu l'émission. Et puis, je pense surtout aux versions audio, tu sais, sur les podcasts, parce que tu peux laisser, tu sais, des étoiles, des commentaires, des
trucs
comme
ça. Oui, c'est vrai. Il faut noter les podcasts.
Et on a plein d'auditeurs et on a beaucoup moins de notes.
C'est vrai?
Alors, moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent.
Il faut forcer, ouais.
Dans la version audio, mettez une petite note sur Apple Podcasts ou sur Spotify, je sais pas comment.
Mettez des étoiles, mettez des étoiles. Ouais,
exactement.
Bien sûr.
Si vous voulez en mettre que deux, mettez-en que deux, mais mettez des étoiles.
Ouais. Mais si vous pouvez en mettre cinq, c'est quand même mieux, donc mettez des étoiles.
En vrai, émission de qualité, donc normalement, c'est 5 étoiles.
Normalement, ça devrait. Ouais, mais après, on sait jamais, mais voilà, c'est vrai que. Mais tu vois, on croit. On peut compter comme ça sur le côté un peu organique du truc, alors qu'en fait, non.
Et
là,
rappeler.
Les gens, tu leur as rappelé.
Oui.
Et je sais.
Ils le font tout de suite, là.
Qu'ils
maintenant.
Le feront, ouais. Oui. Je sais que là, actuellement, au moment où on parle, les gens sont déjà en train de dire, mais où est-ce qu'on met les étoiles sur Spotify, bordel?
Et ils vont trouver et on les remercie d'ailleurs.
Merci d'avance.
Non, en vrai, c'est.
Vous voyez pas le regard parce que vous nous écoutez.
Oui.
Voilà, mais on vous regarde en disant merci beaucoup.
Voilà, on regarde avec amour, en disant, vraiment, on vous remercie.
Merci
profondément,
beaucoup.
Profondément.
Et sinon, sur YouTube, quand même, la cloche, le pouce, un petit commentaire sympathique, voilà.
Bon, voilà, attends, c'est fait.
Ça, ok, donc ça, c'est l'administratif, ça dégage.
Dans le vif du sujet, absolument. Alors. Oui, Thomas, je disais, donc, tu es docteur en sociologie, ta spécialité, c'est la sociologie de la culture. C'est pas le seul truc auquel tu t'intéresses, mais c'est quand même un des éléments de tes travaux. Notamment, d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a marqué, j'ai vu que tu t'étais intéressé aux adolescents. C'est un public qui te tient à cœur?
Ouais, alors oui, j'ai particulièrement travaillé sur les jeunes et notamment les adolescents.
Ouais.
Même si je m'intéresse aux pratiques culturelles d'un peu tout le monde, j'ai fait ma thèse sur les lycéens, donc c'était même plus précis que les adolescents.
Ouais.
Et effectivement, il y a des choses qui se jouent pendant l'adolescence qui me semblent marrantes à étudier. Et puis il y a plein de croyances aussi sur qu'est-ce que font les adolescents, qu'est-ce qu'aiment les adolescents. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas du tout comme avant.
Ouais.
Et donc c'est intéressant quand on fait des sciences sociales de vérifier si les gens disent pas n'importe quoi.
J'imagine.
On peut spoiler le truc ou genre il y a un résultat par rapport à cette question par exemple?
Est-ce que par exemple les jeunes d'aujourd'hui ont rien à voir avec les jeunes d'avant, c'est ça par exemple?
Par exemple.
Globalement, non. Vraiment, s'il y a un truc qui gagne, si on fait un match entre révolution et constance, quoi, inertie, on va dire, c'est plutôt l'inertie qui gagne, hein, quand même, en sciences sociales. Donc, il y a plein de trucs, il y a des trucs qui changent, mais il y a plein de trucs qui sont comme hier et comme avant-hier.
Eh ben, on va en parler.
Aux grandes dames des adolescents en question qui ont toujours l'impression que.
Ils sont pas si différents.
Que le monde tourne autour d'eux et a été inventé par eux, bien sûr.
Et ils vont trouver que leurs petits frères ou leurs petites sœurs sont vraiment complètement nuls par rapport à eux, sont vraiment teubés, ils écoutent de la merde, voilà.
En tout cas, toi, tu as été formé, notamment, enfin, tu avais en tout cas présenté ta thèse de doctorat à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui est un établissement plutôt réputé d'Az. Tu fais de la recherche au sein de différents laboratoires, tu as écrit de nombreux articles, etc. Et puis, en plus, très intéressant, on le disait, t'es musicien, alors t'as plusieurs pratiques, entre guillemets, loisirs autour de la musique. Mm-hmm. On en parlait juste avant l'émission, tu faisais guitariste, un peu de batterie, un peu de clavier aussi.
Voilà, avec l'objectif maintenant de surtout s'amuser quand même.
Très bien.
Après avoir imaginé une carrière dans mes jeunes années.
Ah,
voilà.
La sociologie l'a emporté.
Exactement.
En plus, j'allais dire, il y a peut-être plus de taf, mais en fait, je sais pas, avec les sciences sociales, ça peut être compliqué aussi.
Non, je fais la blague. blagues avec mes collègues sociologues, mais vous inquiétez pas, moi j'ai la musique, et avec mes potes musiciens, mais moi je suis sociologue, donc voilà. Non,
dans tous les cas, c'est compliqué.
Exactement, ouais.
Et puis, alors, t'as encore les mains dans le cambouis d'une autre manière, puisque tu es le président d'une association qui gère une salle qui s'appelle Filset en région parisienne, et vous, bah, vous accueillez plein d'artistes pour des concerts, etc. Il y a même aussi un peu des ateliers, j'ai cru comprendre.
Exactement, ouais. Donc c'est salle de concert, mais on accompagne la pratique artistique aussi, donc les gens qui jouent soit pas du tout, soit déjà des artistes qui veulent faire une carrière comme moi je voulais quand j'étais jeune, et puis on fait de l'action culturelle, on va dans des écoles, dans des hôpitaux, des centres de soins, des prisons, là où la musique peut pas aller toute seule, on s'assure qu'il y va, quoi. Voilà, c'est ça.
Et du coup, cette salle, elle est située où? Parce que la région parisienne, c'est,
bien sûr, pour... c'est à Manille-le-Hongre, à côté de Disneyland Paris, dans le 77, exactement.
Sûr,
voilà, donc Filset, Val d'Europe s'appelle l'association, la salle qu'on gère s'appelle Filset.
Et bah, si vous êtes dans le coin, voilà. Si vous êtes dans le coin, allez-y.
Exactement.
Bon, ça va être passionnant parce que on va s'intéresser au lien entre sociologie et musique, mais plus spécifiquement, on va essayer de questionner la question du goût. Du goût, c'est-à-dire, bah, il y a des choses qu'on aime en musique, d'autres qu'on n'aime pas, etc. Et l'un, instinctivement, souvent, on dit que c'est assez subjectif, cette histoire de goût. Et en fait, les sciences sociales peuvent nous apprendre, bah, qu'il y a des contextes, des environnements qui sont quand même plus favorables à développer tel type de goût, etc. Ça va être un peu le Daz, l'essentiel de notre discussion. On va le développer
très,
en plusieurs
très
points.
C'est dur de rester, avec la rigueur journalistique qui nous caractérise, de ne pas prendre des raccourcis, des warp zones même.
Non, mais on a un professionnel avec nous.
Voilà. Okay, parce que moi, si tu parles de goût et musique, forcément, à un moment donné, on va devoir évoquer ce que toi, tu dis régulièrement, à savoir que telle musique, c'est un peu de la merde.
Non, je dis jamais.
Tu l'as déjà dit.
Mais t'es terrible. Non, jamais de genre ou d'esthétique globale. Il y a des morceaux, je peux dire, c'est un peu pourrave, ouais. Mais jamais.
Tu prends quoi, René Latope ou
Oui, c'est souvent René Latope que je prends comme exemple. C'est l'étalon un peu du truc pourrave, tu vois.
Eh ben, on pourra se poser la question, du coup. Qu'est-ce qui fait, sur quoi on s'appuie pour estimer que c'est pourrave?
Eh ben, c'est
qui serait d'accord avec nous, qui serait pas d'accord avec nous.
Mais c'est de l'oppression. Je suis terrible, en fait. Je devrais être sympa avec René
Latope. On va aussi se poser la question, est-ce que c'est grave ou pas? Je pense que les sciences sociales peuvent aussi nous aider à nous poser cette question-là.
Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est pour commencer, on aime bien dans cette émission un peu juste s'intéresser aux bases, etc., comprendre de quoi on parle. Et on va s'intéresser dans cette première partie, c'est quoi cette histoire de goût, justement? Ma première question, ça serait, quand je vais dire que j'aime quelque chose, comme je le disais un peu en intro, le premier réflexe, c'est de me dire, c'est un truc subjectif qui m'est propre, individuel, et les trucs que j'aime, les trucs que j'aime pas, c'est comme ça.
Ouais.
Qu'en disent les sciences sociales? Est-ce que c'est... c'est vraiment une histoire purement individuelle, cette histoire des goûts musicaux, de ce qu'on aime de manière culturelle d'ailleurs en général.
Ouais, on dit même les goûts, les couleurs, ça se discute pas, ouais, ce genre de choses.
Donc ouais.
Du coup, les sciences sociales veulent en discuter. C'est-à-dire, c'est un peu le principe de n'importe quelle science. Hein, d'ailleurs, c'est de se demander, mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Donc de problématiser le monde et de se demander, mais est-ce que finalement, effectivement, les goûts, ça se répartit de manière aléatoire, d'un truc un peu genre, parce que c'est moi, parce que c'est mon feeling, parce que c'est mon identité, parce que c'est mon âme, ou est-ce que il y a des expériences sociales qui favorise des goûts plutôt que d'autres. Donc c'est ça le point de départ, on va dire.
Et c'est une question que se pose d'ailleurs la sociologie depuis longtemps. Les pratiques culturelles, c'est un objet d'étude pour la sociologie depuis longtemps ou pas?
Alors la culture en général pour l'anthropologie, c'est central. Ce qui fait qu'en sociologie, on se pose la question des pratiques culturelles, c'est beaucoup le fait qu'il y a un essor d'un marché de la culture, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et puis en France, en plus, les pouvoirs publics, avec le ministère de la Culture dans les années 60, qui font que comme on veut avoir un effet sur le monde, on se demande si ça marche et donc on finance aussi de la recherche.
Et la sociologie s'intéresse à cette question, mais est-ce que avant même globalement dans les intellectuels, tu vois, je sais pas comment dire ça, la philosophie, parce que la sociologie est une discipline moderne entre guillemets quand même, qui est née assez récemment, mais qui s'inscrit dans une histoire quand même.
Exactement. Ouais.
Et c'est on se pose la question de la musique et de la place de la musique depuis longtemps dans l'histoire intellectuelle en France, ta connaissance?
Alors oui, ça peut apparaître de différentes manières. Du coup, il y a toujours ce truc-là un peu Nietzsche, un peu connu, que je me rappelle plus la phrase exacte, mais que la vie vaudrait pas la peine d'être vécue sans musique et ce genre de choses.
C'est vrai ça, cette histoire? C'est Nietzsche a vraiment dit ça?
Alors je sais pas s'il l'a vraiment dit. Maintenant, il faudrait que je vérifie. Moi, j'ai toujours tenu pour acquis que c'était que ça venait de là, effectivement. Ouais. Et puis oui, il y a plein de philosophes qui se sont posés la question de la place de la musique, de la beauté, Kant par exemple, ce genre de gens. Pas spécifiquement sur la musique, mais de l'art en général. Des gens dans l'école de Francfort en Allemagne qui ont commencé aussi à se poser la question avec une entrée un peu marxiste, est-ce que la musique est prise dans des logiques marxistes? Donc oui, les philosophes se posent la question, les anthropologues aussi, de manière très différente de la sociologie.
Ouais, parce que J'ai regardé ça très rapidement, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des Platon, Aristote, etc. Ça parlait de musique et de la place de la musique dans une société donnée. J'ai l'impression que c'est un truc où, alors parce que c'est une des figures aussi des sciences sociales, je savais pas qu'un Max Weber, par exemple, s'était intéressé à la musique.
Tout à fait, ouais. C'est, c'est assez vite. C'est une composante qu'on trouve dans l'essentiel des sociétés et qui est là depuis très très longtemps. C'est-à-dire la production artistique en général et la musique de plein de manières différentes. Donc forcément, ça génère des questions sur quelle place ça a, qui l'a fait, quel sens ça a pour les gens, etc.
Ouais. Et la sociologie, elle distingue un peu d'ailleurs les pratiques culturelles. Est-ce qu'il y a des objets que l'on trouve plus souvent, la musique est plus présente que le cinéma ou des choses comme. Enfin, il y a plein de pratiques culturelles.
Ouais. Alors bah du coup en fait ça se divise un peu en questions spécifiques.
Okay.
Et donc le goût, se poser la question du goût, ça a été vraiment, ça se fait beaucoup autour de la musique, on pourrait le faire sur tout, mais il y a vraiment des questions qui sont creusées. Après il y a des silons et des gens qui font des carrières entières en se posant des questions sur comment on peut mesurer le goût musical, comment les gens se distinguent suivant leurs goûts musicaux. Donc il y a vraiment beaucoup ce truc là en musique, spécifiquement du goût.
Mais le goût en plus, enfin ouais, c'est super statutaire en vrai.
C'est-à-dire
c'est-à-dire est-ce que cette musique est bien ou pas.
Ouais. Ou est-ce que je l'apprécie en
c'est
tout cas?
C'est souvent décrété aussi par généralement des classes dominantes. Tu vois, quand on parle de grande musique.
Ah, tu rentres direct dans le vif du sujet.
Je parle de grande musique pour la musique classique ou de musique savante. Ça sous-entend que les autres ne le sont pas. Donc si elles ne le sont pas, c'est que c'est un peu des musiques connes, tu vois. Ouais. Et si elles sont connes, généralement, c'est que du coup, c'est pas appris dans les hautes sphères de la société. Mmh. Et du coup, il y a quand même ce côté un peu de musique de pauvre versus musique bourgeoise.
En partie, c'est pour ça que la musique a servi à ça. On se posait ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enjeux de distinction sociale ou des enjeux de rapports de pouvoir sociaux qui sont dans les goûts musicaux? Et on se l'est moins posé pour d'autres choses, la littérature par exemple, même si on a beaucoup étudié aussi la littérature, mais c'était moins central de se le poser comme ça, comme question.
Comment, comment tu l'expliques ça, que la musique soit autant au centre des débats, soit un objet en tout cas privilégié dans l'espace culturel? Est-ce que, tu sais, parfois on dit, je suis pas sûr que ce soit, enfin je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, qu'il y a une forme d'universalité un peu de la musique, ou un truc assez partagé à l'échelle mondiale, quoi, d'un rapport à la musique, d'un art vraiment ancré dans les cultures humaines de manière générale, peut-être plus que d'autres formes d'art. Je sais pas si c'est vrai, mais.
Alors, si on fait, là, il faudrait dire plutôt de l'anthropologie, hein, de voir effectivement dans toutes les organisations sociales quel type d'art existe. Ouais. Et on trouverait effectivement sans doute des formes de musique qui ressembleraient pas forcément à de la musique suivant les différentes sociétés. C'est-à-dire, ce que les uns appellent de la musique, les autres l'appelleraient peut-être pas forcément de la musique, mais ça existe un peu partout. Là où, par exemple, pour qu'il y ait, de la littérature, il faut de l'écriture, il faut des conditions, l'imprimerie, par exemple, des choses qui font que ça va moins de soi que la musique.
Okay.
Mais il y a quand même des choses, de l'art pictural par exemple, c'est pareil, on le trouverait un peu partout, donc il y a quand même plein de choses qui sont dans plein de sociétés. Juste les sciences sociales se posent des questions différentes, mais pas un peu avec des logiques de carrière de sociologue, quoi. Hein. Ouais. Il y a des questions qui émergent et des gens se disent, attends, mais moi j'ai envie de me comparer avec tel sociologue, j'ai envie de creuser ce truc-là. Et donc on peut commencer à se poser des questions, nous, en interne de nos disciplines, quoi. Des fois, et creuser des silons. Des fois même, je pense que les gens, à la limite, ça les intéresse pas tant que ça, mais nous, on a envie de creuser une question scientifique, et donc on est lancé sur un truc, et donc la question des goûts musicaux, il y a vraiment un truc depuis...
Tu veux dire qu'il y a eu des pairs qui ont précédé, qui sont posés la question et tout, et que ça, ensuite, ça influence les étudiants, machin, à se dire, attends, j'ai envie de reprendre ce modèle qu'ils proposaient.
Exactement. Donc après, t'as envie de comparer une théorie, etc. Et donc, tu creuses des trucs qui sont internes, à la discipline et qui sont pas ces grandes questions du genre, mais la musique, qu'est-ce que ça nous fait, etc., qui sont vraiment des questions très précises internes au champ, quoi.
Ouais. Mais après, quand on parle de goût.
Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs?
Est-ce qu'on parle, par exemple, est-ce que le goût est indissociable de la beauté perçue?
T'es capable de nous donner une définition du goût? Qu'est-ce qu'on entend derrière le goût?
Non, je serais pas capable de donner une définition du goût. C'est-à-dire, nous, quand on va étudier le goût, en gros, ce qu'on va essayer de se rapprocher de la perception subjective qu'a quelqu'un de quelque chose qui est pour lequel il a une expérience satisfaisante pour un registre, mais ce registre, il est pas clairement défini. C'est-à-dire, pourquoi on a un goût exactement? Pas pourquoi en un seul mot. Pourquoi on a un goût? Ça, c'est une question très compliquée en sociologie. Parce que si on est en musique, on pourrait très bien dire, on imagine, par exemple, moi, j'ai un goût pour le rap, par exemple. Mais il y a des gens qui pourraient dire, moi j'ai un goût pour les musiques déprimantes.
Ouais.
Et dans une musique déprimante, potentiellement, il peut y avoir ce qu'on appellerait du rap, mais aussi potentiellement de la musique classique.
Le rap des années 90, en fait. Voilà. Piano, violon, voilà. Bien sûr. Ouais.
Et donc, du coup, la manière dont on va essayer de qualifier les registres font que ça change les goûts. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui existe pour les individus, à quoi ils sont attachés, qu'est-ce qui leur fait vivre des expériences intenses, ou dans le goût comme dans le dégoût, parce qu'une expérience intense, ça peut être aussi vraiment, la gerbe, par exemple, quoi. Mmh. Et donc, c'est ça, en gros, c'est qu'est-ce qui nous fait vivre une expérience intense, ou tout à fait pour laquelle on est indifférent, dans ce qu'on voit comme logiquement un registre dans nos têtes et dans nos corps, parce qu'en fait on mesure aussi un peu le goût avec notre corps. Si on va voir un film et qu'on dit bah je me suis vraiment fait chier, je me suis endormi, en fait on mesure au fait que le film m'a pas empêché de dormir pour dire c'était pas bien et donc je n'ai pas aimé par exemple.
Oui, mais alors le problème c'est que du coup quand on parle de goût et qu'on dit qu'il est totalement subjectif,
ouais,
et que quelque part on est individuellement dans plutôt une perspective d'élévation et d'amélioration, ça veut dire que
dans le meilleur des cas,
si j'aime bien un truc, généralement j'ai tendance à le trouver beau. Est-ce qu'il y a des gens qui en toute objectivité peuvent dire j'adore cette musique, c'est vraiment de la merde, ça n'existe pas?
Eh ben, je suis sûr que toi tu le dis plein de fois. Ça a dû t'arriver à plein de moments de ta vie d'avoir une musique dans laquelle en soirée t'es en train de triper à fond avec tes potes et
mais
tu délires
les maras, c'est ça.
Et okay, tu te dis c'était vraiment trop bien et t'aimes trop cette musique à ce moment-là, mais tu dis pourtant c'est de la merde. Eh ben ça, en fait, il y a effectivement plein de gens qui le disent à plein de moments. Il y a des musiques qui nous plaisent, qui nous font sentir des expériences qui peuvent
sont
être intenses.
Du coup, à des moments de vie, c'est pas une musique qui
peut être des contextes. Voilà, donc là il faudrait distinguer qu'est-ce que, par exemple, si tu te dis qu'est-ce que tu prendrais pour aller sur une île déserte. Là, tu vas penser à genre, qu'est-ce qui me définit musicalement? Quelles sont les choses qui semblent être vraiment, genre, dans l'absolu, au maximum de mes goûts? Mais en fait, ça va être une toute petite partie de ce qu'on pourrait appeler pourtant tes goûts et tes dégoûts. Et que tu vas pouvoir aimer des trucs en disant, non, mais ça, c'est vraiment nul, mais je sais pas pourquoi j'adore. Ou ça nous fait trop triper avec des copains. Ou ça, je le mets le matin pour me réveiller, vraiment, c'est trop bien. Ou je le mets pour faire du sport. Ou on part en vacances. Ça, ma fille écoute ça. Et bah, je suis trop ému parce que j'aime trop. Ah, je trouve la musique, elle est vraiment trop pénible, mais, bah voilà. Donc il y a plein de situations où on peut aimer des choses qu'on trouve pas bien avec les critères qu'on utilise pour évaluer la musique.
T'as dit un truc intéressant, t'as parlé de goût et de dégoût. Est-ce que ça va forcément de pair? C'est des choses qu'il faut, enfin, il faut appréhender les deux ensemble.
Alors ouais, d'ailleurs on peut des fois un peu louper le coche dans la sociologie, hein, où on peut beaucoup s'intéresser aux goûts en oubliant un peu les dégoûts, sachant que une des œuvres un peu angulaires en sociologie de ça, ça a été un livre qui s'appelle La Distinction de Pierre Bourdieu, qui a été publié en 1979, et lui disait en fait c'est surtout les dégoûts qu'il faut regarder, parce qu'en fait on exprime nos distinctions avec les autres gens par les dégoûts.
Notre différence, elle va s'exprimer à travers ce qu'on n'aime pas plus que ce qu'on aime.
Voilà, c'est le dégoût en fait de l'autre en partie, et donc en partie de sa culture, qui structure nos pratiques culturelles. Lui, il insistait beaucoup sur les dégoûts. Donc il y a des gens qui travaillent aussi beaucoup sur les dégoûts, et ça peut être effectivement un très bon moyen de comprendre en partie en creux quoi, qu'est-ce qui fait qu'on vit des choses intenses positivement, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'on est repoussé, qu'on se dit mais ah ça c'est l'air d'être nul, ou même si on pense à la bouffe, hein, qu'est-ce qui fait quand on a des haut le cœur, ça nous donne la gerbe, voilà.
C'est en préparant l'émission, je suis tombé sur un texte, un monsieur qui s'appelle Antoine Aignon, je sais pas si tu le connais.
Carrément.
Et il y avait des questions intéressantes dans son travail. Apparemment, il disait comment les mélomanes aiment la musique, comment l'individu goûte-t-il, comment son goût s'exprime-t-il, comment est-il mis en pratique. Je trouvais intéressant. Je sais pas ce que ça peut. Peut-être tu peux nous en parler un peu de ces questionnements qu'on peut retrouver en sociologie. C'est-à-dire que c'est pas le goût, c'est pas seulement quelque chose d'abstrait de dire j'aime bien, j'aime pas, mais ça, il y a un truc concret qui se passe à la fois dans le corps, dans le cerveau, mais aussi dans nos actes au quotidien presque. Il y a un truc un peu comme ça.
Ouais, tout à fait. Du coup, alors quelqu'un comme Antoine Aignon, il est arrivé justement donc après Bourdieu, et lui, il disait mais en fait le goût c'est pas que une sorte de marqueur social, ou c'est pas que quelque chose dont on sert pour statutairement comme tu disais. C'est aussi des vraies expériences, et donc lui, ce qui l'intéressait, c'était de mesurer, enfin pas vraiment de mesurer d'ailleurs, hein, mais d'essayer de comprendre à quoi les gens étaient vraiment attachés dans leurs expériences, genre. C'est quoi le dispositif d'écoute qu'ils utilisent pour maximiser leurs expériences d'amateurs, à quoi ils sont attachés, à quoi ils s'accrochent dans un truc qui est complètement immatériel comme la musique pour atteindre ces expériences qu'ils visent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait toutes et tous aussi, hein, quelque part, d'essayer de s'accrocher à des aspects de quelque chose qui est pourtant parfaitement immatériel pour atteindre des expériences satisfaisantes.
Concrètement, ça peut prendre quelle forme?
Donc concrètement, ça peut être ce moment-là où tu te poses avec ton cigare, avec ton bon casque, ton vinyle, par exemple, quand t'es donc les gens qui va étudier l'Aignon, ça pourrait être ce genre de choses, pour essayer d'atteindre un plaisir spécifique que tu peux pas atteindre si tu l'écouterais avec ton téléphone un peu à l'arrache en faisant autre chose, par exemple. Et puis ces espèces d'aspects dans la musique sur lesquels tu vas t'attacher, dont t'as pu parler avec tes potes, par exemple, qui font que cet aspect-là de la musique devient un truc auquel tu te tiens pour accéder à quelque chose qui te donne le goût. Quelque part, d'ailleurs, l'école, par exemple, essaye de faire ça, ou l'éducation artistique et culturelle essaye de faire ça, en essayant de donner aux enfants des prises sur des trucs qui leur semblent être souvent complètement nuls, ou qui les laissent complètement différents, et ils essaient de leur dire, mais si, regarde ça, c'est super. Et donc, c'est comme si t'essayais de donner une prise. Tu vois, comme si t'essayais d'escalader un mur, mais t'as rien pour escalader. Bah là, on te dit, bah voilà, attends, là, je te fabrique une prise, et aide-toi de ça pour atteindre le plaisir vers lequel j'essaye de te faire arriver. Ça marche bof, je vous avoue.
On insiste sur quoi, généralement, du coup, à l'école? Sur,
On insiste sur qu'est-ce qui fait que c'est beau, justement. C'est-à-dire que la forme en elle-même est belle, sachant que, comme on disait tout à l'heure, on écoute rarement René Lataupe en se disant, comment c'est fait René Lataupe? Genre, quelle est la tonalité? Quelles sont les textures musicales? On se demande à quoi ça sert. Est-ce que c'est efficace pour crier à tue-tête dans une soirée des paroles qui nous font rire? Et donc, on se demande rarement est-ce que c'est beau. Mais l'école, elle essaye de faire vivre une expérience qu'on appellerait esthétique aux enfants, et elle leur dit, tiens, bah, essayez de regarder, d'être attentif sur ce truc-là. Et donc, dans le cours de musique, si vous vous souvenez, on nous dit c'est quoi les instruments, pourquoi c'est composé comme ça. Donc, on essaye de nous dire, en fait, c'est beau. Et donc, si t'arrives à comprendre que c'est beau, tu vas vivre cette expérience incroyable, une expérience esthétique.
Ça voudrait dire que le goût, ça se construit aussi?
Et donc, bah, les sciences sociales, quand elles commencent à se demander, bah oui, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, qui est une des questions assez classiques en sciences sociales, c'est-à-dire est-ce que c'est construit par les environnements sociaux dans lesquels on est, bah oui, on se rend compte que c'est construit, et c'est construit dans des petits schémas qui sont assez complexes, mais c'est indubitablement construit. C'est-à-dire que il n'y a pas déjà un truc au départ qui est là et qui va faire qu'on a une sorte d'identité, une sorte de noyau dans nous indépassable. Bah, des expériences sociales spécifiques participent à donner des goûts spécifiques.
Et pour ceux qui connaissent pas bien la sociologie, tu nous dis la sociologie observe que c'est construit. Il y a des outils, des manières, des méthodes. Comment on peut dire comment on peut arriver à affirmer cela, tu vois?
Bah oui, c'est parce que c'est un peu ça la science. Mais mettons qu'on se dise comment on ferait pour vérifier que c'est acquis ou que c'est naturel. On pourrait se dire, dans une hypothèse où c'est un truc inné, ça se répartirait de manière aléatoire. On pourrait imaginer que, quels que soient les individus, bah, du coup, on aurait des goûts qui seraient répartis de manière aléatoire. Donc, ça veut dire que si tu demandes à beaucoup d'individus qu'est-ce qu'ils aiment, eh ben, ça, comme ça serait complètement subjectif, ça serait une sorte de truc qui se disperserait comme ça, comme un océan de galets où tous les galets seraient différents. Si tu mesures ça et qu'en fait, tu te rends compte que des gens qui se ressemblent socialement tendent à avoir des goûts qui se ressemblent, alors sans doute, ça veut dire que l'hypothèse de c'est complètement subjectif et ça se répartit aléatoirement est fausse. Et donc, ça veut dire que sans doute, c'est comme ça. Donc, ça, pour ça, il faut poser des questions à plein de gens.
Ah, c'est ça. Donc, l'outil principal, ça va être d'aller recueillir.
En tout cas, ça, c'est un outil qui a été central pour arriver à prouver ça. Donc, et qui continue à être central. C'est-à-dire, on demande à plein de gens les mêmes choses et on essaie de regarder suivant ce qu'on appellerait des variables, ce que répondent les gens. Les variables, c'est des choses qui vont caractériser les gens en eux-mêmes. Donc, ça va être leur âge, leur sexe,
sociale,
voilà, l'endroit où ils vivent, la quantité d'argent qu'ils ont, la quantité d'études qu'ils ont faites, etc. Et on va essayer de regarder, bah, suivant ces variables-là, est-ce que les gens répondent des choses différentes entre eux, et puis est-ce qu'ils répondent tendanciellement les mêmes choses s'ils sont dans la même catégorie?
En fait, ça, on le sait déjà, en fait.
Bah, du coup, maintenant, comme c'est là depuis longtemps, en fait, on a l'impression que si on se contente de dire ça, vous rendez compte, c'est incroyable, la sociologie, ça nous a montré que, suivant, je sais pas moi, l'âge, les gens, ils aiment pas la même musique, les gens sont là genre, ouais. On sait, effectivement. Alors, en partie, on sait parce qu'on a regardé, depuis la fin des années 70, enfin, on a regardé depuis avant ça, en réalité, mais en tout cas, il y a une sorte, ça s'est beaucoup vulgarisé dès les années 80, donc, bah, ça a participé à faire en sorte que maintenant, ça nous semble évident. Et même si ça nous semble évident, on continue quand même beaucoup à résister à l'idée, ou en tout cas on continue à imaginer que quand même nos goûts, on peut pas se dire que ça dépend de genre un truc aussi bête. Si moi on se dit, est-ce que t'as l'impression que tes goûts dépendent du niveau de diplôme de ta mère, par exemple, tu vas me dire, mais de quoi tu me parles? Enfin, quel est le lien entre le niveau de diplôme de ma mère et mes goûts musicaux? Et effectivement, dit comme ça, c'est absurde, mais si on regarde à l'échelle d'un questionnaire, si on demande aux gens quel est le niveau de diplôme de votre mère, et si on leur demande par ailleurs qu'est-ce que vous aimez bien comme musique, on va voir que ça a un effet. C'est pas le niveau de diplôme de ta mère qui a un effet directement, le niveau de diplôme, c'est juste un indicateur du type de famille dans laquelle t'as grandi, mais ça a un effet. Et pourtant, quand ça nous concerne nous et qu'on pense à nos goûts, on a du mal à accepter que, en fait, on est le produit d'une histoire sociale et que c'est pas genre nous, parce que évidemment nous on a l'impression d'être cette singularité et on l'est vraiment, hein. C'est-à-dire nos goûts ressemblent pas exactement à ceux de quelqu'un d'autre, mais on a du mal à imaginer qu'ils étaient pas déjà là dans nous comme une sorte d'identité. Bien et sûr. que c'est cette production-là. Donc à la fois on le sait, à la fois on l'oublie, et à la fois du coup on oublie toutes les implications qui vont avec.
Et puis aussi ce serait oublier que tout ça c'est mouvant.
Exactement, ouais.
Ouais.
Parce que du coup, comme je disais, en fait, on a des goûts pour des registres. Donc, ce qu'on associe à des registres, en fait, bah, ça change. Suivant, bah, qu'est-ce qui existe en musique? Bah, avant que des formes qu'on appellerait aujourd'hui le rap existent, bah, tu pouvais pas avoir un goût pour le rap. Et donc, bah, du coup, qui va avoir un goût pour une forme esthétique nouvelles, par exemple. Et puis, bah, si des acteurs interviennent et rangent les musiques différemment que par genre esthétique, par exemple dans des playlists, et qui fait que tu peux aimer des playlists workout, par exemple, bah, du temps que ça n'a pas existé, tu peux pas avoir un goût pour ça. Et puis, bah, mettons qu'on se rende compte que le temps que tu restes à l'école ait un effet sur tes goûts, bah, ça veut dire que si le système scolaire change et que les gens restent plus ou moins longtemps à l'école, potentiellement, ça peut changer aussi, ça peut faire bouger les goûts. Et même, on peut se dire, la même musique, si on l'observe dans l'histoire, c'est-à-dire si, par exemple si on regarde comme l'a fait Olivier Rouef le jazz dans le XXe siècle, ben on va se rendre compte que la même musique peut avoir des publics différents, c'est-à-dire des gens qui l'aiment, qui sont pas les mêmes, alors que c'est le même objet, c'est-à-dire la musique en elle-même a pas changé, mais les gens qui tendanciellement aiment cette musique, qui vibrent avec cette musique, sont pas les mêmes socialement.
Au fil des années.
Voilà, au fil du temps, effectivement, bah du coup les gens qui déclarent aimer une même musique, ils peuvent être pas les mêmes.
Donc ça, on l'observe.
Ça on peut le mesurer. Ça réclame beaucoup de travail, parce que ça veut dire qu'il faut faire un travail soit un travail d'histoire où tu vas observer avec des archives, soit il faut faire des enquêtes stables sur le temps long qui te permettent de comparer comment les choses changent dans le temps. Mais ça a une implication importante. C'est-à-dire, si une même musique peut avoir des publics différents, c'est-à-dire des gens qui vibrent qui sont pas les mêmes, bah ça veut dire que c'est pas la musique qui génère le goût. Parce que sinon, ça veut dire que la musique générerait le goût chez les mêmes gens tout le temps. Or, donc si ça change, ça veut dire que c'est pas là. Et ça, c'est un gros truc. On a du mal à imaginer que c'est pas parce que c'est la musique qui est comme elle est qu'on l'aime d'une certaine manière. Il suffit pas de ça.
Ouais. Donc c'est bien là, on revient à l'environnement social, sociétal, au cadre.
Et surtout à comment, à un moment donné, cette musique est perçue. Ça va avoir aussi une influence sur le rapport qu'on a à cette musique, j'imagine.
Exactement. Voilà. Ouais. C'est-à-dire comment on la range justement dans nos têtes, dans un registre. Donc avec quel mot on va la classer? À quoi elle sert? Si demain, par exemple, je sais pas moi, un conservatoire de la musique populaire se met à faire bosser sur René Lataupe, par exemple, et qu'on étudie vraiment la forme de René Lataupe, peut-être qu'on va vraiment se mettre à être attentif à la forme esthétique de René Lataupe et qu'on va se dire putain c'est quand même vachement bien en fait et puis qu'a fait d'autre le créateur de René Lataupe, vous savez qui a composé la René Lataupe par exemple ou pas?
Absolument pas.
Enfin, c'est marrant parce que tout le monde pourrait chanter René Lataupe, c'est comme si on considérait que c'est un objet industriel qui a pas de créateur. Évidemment qu'il y a des gens qui ont composé ça, arrangé ça, produit ça, interprété René Lataupe, on sait pas qui c'est par exemple, mais si on se met à être attentif à ça, peut-être que ça va changer effectivement notre rapport à cette musique.
Alors je viens de regarder dans les crédits Spotify, il faudrait que je regarde plutôt un truc genre Discogs et tout pour être plus précis, mais composé par Famtis, je sais pas qui est Famtis, je sais pas comment il faut le prononcer, interprété par René Lataupe. Bon là c'est clairement un alias.
Mignon.
Mais donc il y a bien un compositeur derrière.
Attends, c'est pas vraiment une taupe, t'es en train de dire.
Oh, incroyable. Non, attends, parce que depuis tout à l'heure on en parle, tout le monde ne connaît pas le lore de DLT. On se met un extrait quand même
t'es
de René
si
Lataupe.
Mignon,
c'est
mignon.
Ça va être le morceau qu'on aura le plus diffusé dans cette émission. René Lataupe. Allez, on s'écoute un extrait. Tu rigoles, Daz. Tu es atterré.
Que j'avais jamais écouté l'intro de ce morceau.
C'est vrai? C'est reggae un peu,
carrément.
C'est reggae.
Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras.
Là, c'est moins reggae.
Incroyable, ça.
Cette transition stylistique.
Et voilà. En vrai, c'est un peu courageux, quand même.
Ouais, je sais pas, c'est une proposition.
Là, par exemple, on pourrait faire une analyse esthétique en disant, effectivement, le début s'inspire du reggae avec des traits esthétiques classiques du reggae qu'on pourrait reconnaître si on est musicien, la guitare en l'air à contretemps, la petite cocotte, etc. Puis, finalement, on passe à un truc plus club avec, on pourrait analyser le son du kick, le son du clavier qui est caractéristique de tel artiste, etc. Donc, on pourrait faire complètement ça pour René Lataupe.
En vrai, en tant que tel, tout est intéressant. Après, ça veut pas dire que, bon, chacun va le valoriser à sa manière, machin, etc. Mais se pencher sur les choses, c'est quasiment tout le temps intéressant. Hein.
En tout cas, on pourrait le faire. La question qui est intéressante pour un sociologue, c'est pourquoi on le fait pour certaines choses et pourquoi on le fait pas pour d'autres. Et qu'est-ce que ça génère dans les goûts? C'est-à-dire est-ce que ça a un effet sur qui aime quoi, par exemple, d'avoir ce rapport-là aux musiques plutôt qu'un autre?
Il y a un truc, moi, que j'aime bien dans l'approche globalement des sciences sociales sur des objets comme la musique, enfin, des objets larges, hein, parce qu'il y a tellement d'approches différentes de la musique, mais c'est que ça rappelle, moi, un truc qui me touche, aussi parce que je viens un peu des sciences sociales, c'est de dire un peu que la musique, c'est plus que de la musique. J'aime bien cette phrase, quoi, c'est de dire il y a la musique en elle-même, l'objet, l'œuvre, mais tout ce qui se répercute derrière, tout ce qui l'entoure, toutes les pratiques, les représentations, etc. Tout ce dont on parle tout à l'heure, c'est immense, en fait.
Ah bah, si on gardait que la musique, c'est-à-dire si on vivait dans un monde un peu de blind test permanent, c'est-à-dire où rien de ce qui entoure la musique n'existe et il n'y a que la musique, le monde serait sans doute, enfin, nos pratiques d'écoute musicale, nos goûts, qui aime quoi, ce serait sans doute très, 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 très différent. Il y a des sociologues, d'ailleurs, qui ont tenté un truc un peu comme ça. Je crois qu'ils sont américains, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Matthew Salganik, avec d'autres auteurs. Ils avaient fait un questionnaire qui était comme une sorte de jeu. Donc, ils avaient une cinquantaine de morceaux et ils balançaient les gens sur une plateforme sur laquelle ils écoutaient les morceaux et ils avaient divisé leurs plusieurs milliers de répondants dans plusieurs mondes différents. Il y a des gens qui arrivaient dans un monde où à chaque fois c'était juste t'as aucune information, les titres sont à chaque fois dans le désordre. En gros, pour chaque nouvelle personne qui arrive sur la plateforme, t'as les titres dans le désordre, tu peux écouter les titres que tu veux et tu peux éventuellement mettre des notes, dire lesquels tu préfères, etc. Pour d'autres personnes, plus des gens écoutent les trucs et plus ça se met dans un ordre du genre du plus écouté au moins écouté. Ou pour un autre monde, tu vas voir genre les notes qu'ont mis les gens, et en fait ça fait que les gens ont pas du tout les mêmes préférences dans ces différents mondes.
Tu veux dire qu'en fonction de l'accès à la musique, comment elle est diffusée, qu'est-ce qu'on te met en premier, est-ce que tu choisis ou pas, etc., ça change l'expérience.
Voilà, ça change comment tu l'évalues, c'est-à-dire quelles étaient les musiques bien pour toi ou pas. C'est-à-dire que tu changes déjà qui a des chances de succès dans ce marché-là. C'est-à-dire si tu arrives dans un marché où on a ordonné par la popularité les titres par rapport à un monde où il y a zéro ordre, ben en fait tu peux prédire qui va être populaire dans le monde où il y a eu un ordre préalable, et dans l'autre c'est beaucoup plus difficile de savoir qui va être populaire. Si on était dans un monde où la qualité en elle-même elle brille au sens du elle arrive à convaincre tout le monde, bah on retrouverait un ordre naturel dans lequel les meilleures musiques gagnent. Bah en fait on voit que c'est pas le cas. Donc si on avait
en fait c'est en plus qu'est-ce que ça veut dire la qualité intrinsèquement meilleure.
Bah du coup là si on en tant que science sociale, si on commence à se demander OK bah qu'est-ce qu'on appelle la qualité, comment on mesure la qualité, on rentrerait dans des questions très compliquées où on verrait qu'il y a pas de manière objectivement plus valable qu'une autre de mesurer la qualité. Et donc bah si tu dis une musique est très efficace pour faire la fête et donc elle est très bien. Donc dans une sorte de monde vertical, elle est beaucoup mieux que, par exemple, je sais pas moi, un truc de Pierre Boulez pour faire la fête. Si tu mets Pierre Boulez à une soirée en club, à mon avis, ça va être plus dur. Voilà. Donc tu peux dire, René Latoupe est bien meilleur que Pierre Boulez pour certains trucs. Et tu peux dire, oui, mais Pierre Boulez, il invente des formes, c'est quand même vachement plus... c'est vraiment intelligent, il s'inspire de choses musicales incroyables. Donc ça serait une autre manière d'évaluer la qualité, mais tu pourrais pas dire que telle échelle est plus valable qu'une autre. Pas objectivement, c'est-à-dire pas en dehors de qu'est-ce qu'on décide arbitrairement, ça serait impossible.
Donc c'est ça un peu le truc qui résumerait notre discussion avant qu'on passe à la deuxième partie, c'est de dire en tant que tel, l'objet il prend de la valeur uniquement quand on commence à en discuter et à se mettre d'accord sur comment on juge ce truc, qu'est-ce qu'on en dit, on se met d'accord et c'est là où ça devient intrinsèquement, c'est là où on Exactement. Le détermine réellement.
Voilà, même on pourrait dire qu'il y a plein de choses qui sont de la musique et qu'on n'interprète pas comme de la musique. Je sais pas, une sirène d'un truc de pompier ou de la police par exemple, quelque part c'est des notes agencées avec un rythme et des tonalités, on l'interprète jamais comme de la musique, ou même de la musique d'attente, on n'estime plus que c'est de la musique, c'est juste un objet fonctionnel. Et donc c'est vraiment les usages sociaux qu'on a de la musique qui explique beaucoup plus facilement pourquoi des gens ont des goûts ou des dégoûts pour différentes musiques que la musique en elle-même. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'on peut vraiment valider qu'en sciences sociales, avec l'aide de l'histoire qui regarde genre comment les choses étaient avant et comment elles sont aujourd'hui avec les mêmes musiques, avec l'aide de l'anthropologie, comment ça se passe dans les différentes sociétés, et avec l'aide de la sociologie qui regarde comment ça se passe à l'intérieur d'une société si on essaye de distinguer des groupes de gens, on arriverait à cette conclusion-là. Vraiment, ce qui entoure la musique, les usages sociaux de la musique, c'est ce qui définit notre rapport avec la musique.
Après, il y a des musiques d'attente qui slapent bien, hein, franchement. C'est parce qu'on est habitué à Vivaldi, tout ça, mais des fois, t'as des trucs, c'est pas mal.
Il
y a
des trucs, si on appelle vraiment souvent, on les connaît même par cœur. Hein. C'est vrai qu'on on peut les chantonner avec beaucoup de plaisir.
Tiens, dans un registre complètement différent, avant de passer à cette deuxième partie, comment toi t'es arrivé mais tu sais, sociologie, musique, dans ton parcours personnel, comment c'était des intérêts initiaux un peu pour ce genre de truc.
Alors d'abord musicien ado au lycée, etc. Et donc vraiment genre à fond dans la musique. Et puis qu'est-ce que je fais de ma vie un peu en terminale, zéro idée de ce que je fais. Moi je voulais faire de la musique un peu. Mon frère et mon grand frère lui était parti pour faire de la musique un peu. Et je sais pas, je me suis dit, ah ouais, je vais peut-être faire musicologie, mais je savais rien faire en solfège, donc je pouvais pas rentrer. Et j'ai vraiment fait un peu le truc, tu vois, les bolasses, tout ça, le mec qui a pas d'idée, quoi. Je me suis dit, ouais, sociologie, j'ai un peu fait ça en terminale, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Et après, du coup, j'avais beaucoup de questions avec ça. Je me disais, mais comment font les gens pour prouver que tel truc est meilleur qu'un autre? J'avais l'impression que des gens s'appuyaient sur, mais si quand même, tu peux pas dire ça, genre la musique est mieux. Et j'avais l'impression que je me disais, mais ça se voit que c'est pas sur la musique qu'on s'appuie à plein de moments pour évaluer. Donc je me suis dit, j'ai vraiment envie de comprendre ça. Et je voulais pas comprendre que les goûts. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment on se sert de la musique aussi pour discuter entre nous. Et donc, notamment pendant l'adolescence, où je pense que c'était des moments où je me posais plein de questions. Moi, j'écoutais du métal, donc il y avait un truc où un peu t'es un outcast et un peu tu veux revendiquer une contre-culture. Et donc, j'avais plein, je pense, d'interrogations qui étaient restées. Et je me disais, j'ai envie de comprendre comment ça marche exactement, quoi. Voilà, ça, c'est quand même un bon point de départ pour faire de la science, c'est de se demander, mais comment ça marche exactement.
Voilà. Ce que je vous propose, c'est pour parler de cette deuxième partie, enfin, rentrer dans cette deuxième partie sur un peu plus spécifiquement, en fait, les goûts des Français. Et d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous parler aussi de certains de tes travaux, de recherches que tu as fait, ce que tu as pu observer sur le terrain et tout. Y a un terme qui revient souvent quand on s'intéresse à la sociologie de la musique, c'est la notion de stratification sociale des goûts musicaux.
C'est vrai que ça sonne compliqué dit comme ça, mais
ouais. Mais en fait, c'est pas si compliqué. On a commencé d'ailleurs à en parler, mais tu peux peut-être rapidement.
Ouais, le seul truc qu'on rajouterait à ce qu'on a dit, c'est que ouais. En fait, on voit que suivant les classes sociales, donc on est dans des sociétés qui sont pas horizontales. Il y a les gens en fait ont plus ou moins accès à des ressources qui leur permettent d'être les gagnants du jeu de la société ou pas.
Des ressources, qu'elles soient financières ou voilà. Symboliques aussi, voilà, du savoir, voilà, du réseau.
Exactement. Voilà, exactement. Donc là, t'as résumé en gros trois types de ce que Pierre Bourdieu a appelé des capitaux. Donc c'est ça quoi, hein. Et ça te permet de dominer les autres. Si t'as de l'argent, tu peux les payer pour qu'ils fassent le ménage à ta place. Si t'as plus de connaissances, t'as du prestige, et puis ça te permet aussi d'avoir des meilleurs diplômes qui te permettent d'avoir potentiellement des meilleurs postes. Et puis si t'as du réseau, bah t'as accès à des informations, des postes, plein de choses qui te permettent de gagner le jeu de la vie en gros quoi. Et donc bah ça crée donc des classes sociales. Et donc une des questions en sociologie, c'est dans une société structurée par des classes sociales, est-ce qu'on retrouve l'effet de la classe sociale dans plein de trucs? Et donc, une des grandes questions de Pierre Bourdieu, c'était de se dire, dans ce livre-là qui s'appelle La Distinction, c'était de se dire, en réalité, le goût, plus il a l'air naturel, et plus il masque le fait que, en réalité, c'est une construction sociale qui légitime, qui fait que les gens qui dominent, après tout, on a l'impression qu'ils dominent pour des bonnes raisons, c'est parce qu'ils ont des meilleurs goûts, ils sont mieux que les autres, ils ont des meilleurs goûts que les autres, ils sont plus intelligents, ils sont plus distingués, ils ont la classe. Donc le livre s'appelle La Distinction, qui veut dire quelque part deux choses, c'est-à-dire on se distingue socialement par les pratiques, les goûts, etc., mais aussi on n'est plus distingué, donc on est plus haut que les autres. Et donc plus le goût apparaît comme un truc naturel, et plus ça apparaît comme et ces gens-là dominent pour des raisons un peu naturelles. Et lui il dit en fait je vais un peu démonter cette boîte-là pour montrer qu'en réalité c'est une construction sociale qu'on appellerait contingente. Et donc pour ça on est obligé de regarder est-ce que les différentes classes sociales font les différentes choses, et est-ce que ce qu'on estime dans une société comme étant bien est effectivement plus consommé par les classes supérieures, et donc quel rapport ont les gens avec ça. Donc ça va être vraiment au-delà de se demander juste qu'est-ce que les gens aiment bien. C'est un peu une question du genre, mais à quoi ça sert dans la société, cette stratification, cette distinction sociale d'un truc qui a l'air aussi un peu bête comme chou que des goûts musicaux, qui a pas l'air d'être un truc particulièrement politique ou un enjeu de pouvoir.
Mais en réalité, ça l'est.
Alors qu'en fait...
Exactement. Exactement. Donc lui, il arrive et il dit, en fait, c'est un des mécanismes qui permet, dans une société dans laquelle on est censé être naître libre et égaux en droit, comment ça se fait que la société elle se reproduit dans une hiérarchie inégale quoi. Lui dit en partie ça fait partie de ce mécanisme là, c'est la culture masque, donne une légitimité à quelque chose qu'on trouve politiquement pas légitime, c'est-à-dire qu'en fait des classes sociales arrivent à se reproduire dans une structure inégalitaire. Et donc ça c'est un des grands objectifs de son bouquin La Distinction, qu'on a un peu oublié des fois, parce qu'en des fois on se reconcentre sur les goûts musicaux complètement détachés de tout autre objet de qu'est-ce que les gens aiment, ce qui est une question intéressante, mais il faut essayer de pas la détacher de à quoi ça sert dans la société.
Du réel, entre guillemets, de ce qu'on peut observer.
De qu'est-ce que ça produit, de pourquoi c'est comme ça, effectivement, quoi, et de pourquoi les structures tiennent autant, par exemple, et pourquoi parce qu'on pourrait très bien imaginer que, genre, l'arrivée d'Internet fait voler en éclats tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, comment ça se fait que ça tient? Il faut essayer aussi de le rattacher à des questions plus larges, du genre, comment marche notre société? Pas que, genre, qu'est-ce qu'aiment bien les gens, quoi.
T'as parlé de rapports de domination, etc. J'aimerais juste préciser ça pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ces termes, etc. C'est, à mon sens, l'idée derrière, c'est pas de dire qu'il y a des méchants qui cherchent à dominer les autres, mais plutôt que c'est un état de fait, une forme de privilège qu'on peut observer concrètement, d'accès à certaines choses, pas de manière pour vouloir enfoncer les autres.
Exactement.
Mais c'est juste qu'on observe qu'ils ont accès à peut-être plus de choses que d'autres.
Voilà, en fait, ça c'est un truc vraiment important. C'est vrai, c'est le principe des sciences sociales, c'est que on n'est pas là pour juger. En fait, il y a pas de bonne culture ou de mauvaise culture. Il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a pas de bonne culture ou de mauvaise culture. Par exemple, c'est vraiment un apprentissage de l'anthropologie quelque part. Si on veut arriver à comprendre d'autres cultures, il faut qu'on parte du principe que les cultures se valent d'une certaine manière, parce que sinon, on juge une culture A avec les critères d'une culture B, ça nous empêche de la comprendre, quoi. Et donc, en faisant ça, on peut arriver à prouver qu'il y a des inégalités au sens de gens qui sont qu'ont du pouvoir, plus de pouvoir que d'autres gens et qui peuvent donc dominer d'autres gens. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? C'est pas vraiment le point de départ de la sociologie. On peut utiliser le constat de la sociologie pour ensuite se demander si moralement on trouve ça bien, si politiquement on veut ça, mais nous, notre travail, c'est de prouver si objectivement c'est vrai ou pas.
Parce qu'il y a parfois confusion, je profite de ce dont tu parles là, il y a parfois confusion entre les sciences sociales et une forme aussi de militantisme, en tout cas d'application politique. Il peut y avoir des liens entre les deux, bien entendu, ouais. Mais il faut savoir aussi les distinguer.
Bah, en tout cas, il faut surtout pas perdre ce fil-là dans la science où nous, l'objet, en tout cas, c'est de comprendre sans juger. Après, il y a plein de questions qui émergent de point de vue politique. Par exemple, si Bourdieu, il fait cette étude-là, c'est quelque part une manière de dire comment c'est possible qu'une société dans laquelle on doit être libre et égaux en droit reproduise une structure sociale hiérarchique inégale. Et donc, quelque part, c'est l'écart entre un modèle politique qui peut paraître souhaitable et, en fait, la réalité qui est quand même assez éloignée, qui peut générer une question, comment ça marche, qui fait qu'après, on va vérifier. Mais après, quand on veut vérifier, on se dit pas, je veux pouvoir trouver que les riches sont des méchants, parce que si on est en train de faire ça, clairement, il y a un problème. Nous, on veut essayer de comprendre, est-ce que quand on est riche, effectivement, on a des pratiques qui, par exemple, nous permettent d'avoir du prestige, qui nous permettent de pouvoir dominer d'autres gens. Il faut qu'on arrive à prouver de la meilleure manière possible que objectivement c'est le cas. Et ensuite, une fois qu'on l'a fait, on peut essayer de tirer des conséquences politiques de ça ensemble, en tant que société, en se demandant, est-ce que ça nous va que des gens puissent dominer d'autres gens? Ça serait quoi les conditions qui nous semblent effectivement légitimes pour le faire? Et donc, bah, le truc de Bourdieu qui me semble vraiment très fort, c'est de dire, si on trouve ça légitime parce qu'on croit que le truc c'est naturel et donc les gens sont naturellement supérieurs aux autres, eh ben c'est faux. Et donc si c'est faux, on est en train d'avoir un modèle politique qui est basé sur une vision erronée des choses. Donc mon rôle en tant que scientifique, c'est de venir casser ça au burin pour qu'on reparte sur des bonnes bases, des bases plus lucides, quoi.
Mais en vrai, il y a jamais rien eu de naturel de toute façon. C'est que de la prescription.
Après, c'est un grand questionnement anthropologique. Tu parlais d'inné d'acquis, etc. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'il y a des invariants, des trucs communs à absolument tous les hommes? Est-ce qu'on est avant tout construit? Est-ce qu'on est principalement de l'environnement? C'est compliqué. Parce qu'après, il y a l'approche culturelle, mais après, il y a aussi d'autres approches. Je pense à l'approche cognitive, à l'approche psychologique, etc. Et on est aussi des corps, on est aussi des cerveaux, etc. Donc, c'est encore un peu plus complexe que ça. Mais c'est clair que l'approche culturelle, elle a quand même démontré qu'il y avait un impact énorme.
En fait, il faudrait dire, en gros, notre corps, il est à la fois 100% biologique, 100% social, 100% psychologisé, ouais, etc. Donc, dire que c'est sûr et certain que ce qu'on a réussi à prouver maintenant et qu'on a réussi à reproduire assez souvent pour voir que, genre, vraiment la stratification sociale des goûts, je pense qu'on peut regarder, mais je sais pas combien d'enquêtes dans je sais pas combien de pays, et on va voir que si c'est une société par classe sociale, on va retrouver des traces de la classe sociale dans les goûts musicaux, par exemple. Ouais. Ça marche à peu près quand même à tous les
coups. C'est-à-dire, tu veux dire que les goûts des dominants, globalement, c'est les goûts qui vont être vus comme légitimes, positifs.
Déjà les goûts sont différents, tu vois, on pourrait faire en plus d'étapes, déjà les goûts sont tendent à être différents, ça veut pas dire que c'est genre quand t'es dans une classe sociale A, tu vas aimer 100% du contenu A, et quand t'es dans une classe, ça marchera quand même pas comme ça, mais tendanciellement on va avoir des différences, et en plus effectivement, bah, on va voir que ce qu'on considère comme bien à un moment donné dans une société donnée, et bah, ça va plus ressembler au goût des classes supérieures de cette société-là. Et donc, comment on sait que c'est considéré bien? Ça, c'est une question qui est aussi compliquée, qui est aussi tout un chantier de la sociologie. Mais donc, par exemple, on pourrait regarder qu'est-ce que les institutions qu'on paye tous et toutes avec nos impôts promeuvent comme culture, par exemple. On va se rendre compte que les pratiques, les goûts et les rapports à la culture qui sont promus, par exemple, par l'école, c'est ceux qui ressemblent plus aux classes supérieures de la société au moment où on regarde ces choses-là, par exemple. Donc, du coup, comme l'école, elle donne des notes, par exemple, et que ça participe à faire ton destin, évidemment, si toi, t'as une sorte de connexion culturelle avec l'école, c'est plus facile de comprendre où l'école veut en venir, d'être reconnu par l'école comme quelqu'un d'intelligent, voire de brillant, sans être scolaire, en plus, c'est quand même merveilleux. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, on y gagne, quoi. Et y a pas que ça, y a aussi juste comment on se sent. C'est-à-dire, si nous, on est reconnu par l'école, par exemple, on est fier de nous. Alors que, si on a l'impression qu'on n'y connaît jamais rien à rien, ou qu'on aime des trucs qui ont toujours l'air dont les gens se moquent, par exemple, si vraiment moi je suis fan de télé-réalité et de René Lataupe, par exemple, et que j'y connais rien à ce qu'on appelle la grande musique, il y a des moments où ce qui peut m'arriver, c'est que je vais avoir honte de moi. Et donc ça produit aussi des effets qui sont pas que des effets mécaniques, ça produit des trucs, des affects qui font qu'on a une vie qui est plus ou moins heureuse ou plus ou moins facile à vivre, quoi.
On arrive un peu à cette idée de... Il y a là une forme de jugement social autour des goûts, en fait.
Carrément. Évidemment. Ouais, carrément.
C'est des trucs que t'as observé.
Évidemment. De toute façon, on le reconnaît. Enfin, j'ai jamais vu de famille bourgeoise s'enjailler sur de la rumba congolaise, tu vois. À part si c'est une famille bourgeoise avec des origines congolaises. Mais sinon, en vrai, tu vois, quand tu vas en rallye ou dans des trucs comme ça, généralement, c'est quand même très normé comme...
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça peut nous amener justement à... Donc, tu as beaucoup parlé de Pierre Bourdieu, qui effectivement, autour de la question du goût, de la distinction, etc., a marqué à un moment important. À l'époque, est-ce que j'ai une bêtise, où il ressortait globalement en disant, par exemple, les classes sociales dominantes, bourgeoises, on peut utiliser le terme qu'on veut, elles vont se distinguer à travers leurs goûts musicaux aussi, et notamment avoir peut-être plus tendance à aller vers les musiques savantes, musiques classiques, etc. Il me semble que c'était un des constats.
Ouais, complètement.
Mais qui, à ma connaissance, et là ça va être intéressant que tu nous en parles, c'est, on est quand même pas mal d'années après le bouquin. Et il y a plein de sociologues qui se sont dit, est-ce que c'est encore valable?
Ah ouais. Oui, parce qu'en plus, non seulement le bouquin sort en 79, donc il y a déjà un petit moment, mais avec des données qui étaient produites de mémoire plutôt dans les années 60 ou la fin des années 60, parce qu'évidemment, un peu, des fois, on est très, très en retard en sociologie, parce que il nous faut du temps pour produire les données, pour les analyser, etc. Donc des fois, quand on publie un truc, c'est sur des données d'il y a 5-6 ans, et tout le monde est là, genre, mais le monde a changé depuis, en réalité, souvent non, mais donc on nous renvoie au fait que ça sert à rien. Donc effectivement, plein de gens se sont dit, en fait, est-ce que ça continue à exister? Et notamment, on s'est beaucoup attaché à essayer de voir s'il y a un truc qui avait produit Père Bourdieu continuait à exister, c'est-à-dire un rapport d'équivalence, qu'on va appeler d'homologie, chez Père Bourdieu, entre la structure sociale, donc où les gens sont inégaux entre eux, avec plus ou moins de jetons de la ville à ses capitaux, et puis la structure des goûts et des pratiques. Ouais. Donc, lui, il disait, en gros, si on regarde, si on fait deux schémas de ces deux trucs, et qu'on les met l'un par-dessus l'autre, ça colle. C'est les mêmes. En gros, on voit que les gens, dans leur espace, ils aiment les trucs, etc. Et donc, des gens se sont dit, mais ça, est-ce que ça continue à être vrai? Donc, il y a eu beaucoup de travaux qu'on visait à essayer de mesurer ça. Genre, typiquement, est-ce que, par exemple, quand on est, quand on a beaucoup de capital culturel, donc plutôt des savoirs plutôt que de l'argent, parce que, par exemple, si on est professeur d'université ou de secondaire, on n'est pas parmi les plus riches de la société, mais on a beaucoup de savoirs, etc.
Forme de capital.
Voilà, exactement. Donc, est-ce que ça fait que les gens aiment effectivement la musique dite savante? Donc, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on appelle la musique savante? En fait, ça change dans le temps, mais mettons que aujourd'hui, ça serait donc la musique classique, l'opéra, et on mettrait le jazz qu'on n'aurait absolument pas mis il y a quelques décennies. Mais du coup, on pourrait se demander, est-ce que les gens aiment vraiment ça encore aujourd'hui? Donc, on va reproduire l'enquête pour essayer de voir si les mêmes causes donnent les mêmes effets. Donc là, il y a des sociologues qui sont arrivés pour dire, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça finalement. C'est-à-dire cette espèce de rapport d'homologie. Je fais ça avec mes mains parce qu'en fait, c'est ça, c'est un plan à plusieurs dimensions.
Un peu une croix avec.
Donc, où les gens se répartissent dans l'espace et donc on superpose ces deux plans et ça colle. Okay. Et donc des gens sont arrivés pour dire, est-ce que ça marche? Le truc de Bourdieu, normalement, c'est censé marcher si des gens ont des goûts spécifiques qui correspondent à leur classe d'une certaine manière et des dégoûts pour les genres, on va dire, ou les objets culturels, appréciés par les autres typiquement. Ouais. Donc la figure qu'on imagine du snob, c'est justement exactement ce que tu disais, c'est-à-dire on va pas s'enjailler à faire un truc de plouc, et donc c'est vraiment genre, en fait, les goûts des autres sont mes dégoûts, un peu comme on disait. Donc techniquement, pour retrouver exactement le modèle que défendrait Bourdieu, en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que le bouquin, il est comme as, et le mec a parlé quand même de plein de trucs, donc on s'est attaché à
quelque... on vulgarise un peu ici, on va un peu
vite. Mais même après, en tant que chercheur, en fait, après, on a fait des trucs de tunnel où on s'est focalisé sur un truc du bouquin, alors qu'en fait, il y avait déjà plein d'autres choses dans le bouquin. Mais donc, on s'est dit, on va revérifier s'il y a ça, et en réalité, en fait, on trouve des résultats un peu différents qui s'expliquent en partie avec le changement du temps. Et puis aussi, on a regardé ça dans d'autres sociétés que la France des années 60, qui est quand même une société très spécifique, marquée par un rapport à la culture spécifique, des politiques culturelles spécifiques. Si on fait la même chose aux États-Unis maintenant, ça serait pas la même chose, etc.
En fait, moi, ce que je constate, c'est que on a plus cette structuration qui est de dire, par exemple, la musique classique, c'est pour les classes sociales supérieures, et puis je sais pas, le rap, c'est pour les classes sociales inférieures. Par contre, ce qu'on constate, c'est que pour que le rap soit écouté dans les classes sociales supérieures, généralement, il faut qu'il y ait des prescripteurs de cette musique qui appartiennent aussi à cette classe-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent du rap aujourd'hui parce qu'on a eu un Nekfeu, parce qu'on a eu un Lompal, parce qu'on a eu des gens, en fait, qui ressemblent aussi aux classes moyennes supérieures, qui permettent d'apprécier la musique, alors que si c'était que des mecs qui venaient de quartiers dans lesquels on ne va pas, comme on se retrouve pas, nous, dans l'image que ces gens renvoient, c'est pour ça que le rapport à l'image aussi est super important, notamment à l'adolescence, et en fait, on l'écouterait pas. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est un petit peu hybridé le truc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus juste une distinction de genres musicaux, c'est plus, est-ce que ces gens qui font cette musique-là me ressemblent? S'il y en a, alors, dans ce cas-là, effectivement, je vais pouvoir m'ouvrir à cette musique, sinon, c'est pas pour moi.
Qu'est-ce que disent justement les études sociologiques?
En plus, on le voit dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'on peut intéresser des jeunes issus des quartiers populaires à de la musique savante à partir du moment où il y a des gens qui leur ressemblent, qui la pratiquent.
Et tu vois, avec des codes qui sont communs, je pense à Sofiane Pamard, ce genre de gars
qui effectivement, du coup, sont des mecs qui ont grandi en milieu populaire et qui ont accès à...
C'est cliché ce qu'on raconte ou il y a une part de vrai?
Non, il y a une part de vrai. Il faudrait plus que les artistes, il faut aussi des intermédiaires qui, donc les intermédiaires, c'est par exemple des gens comme vous, des médias, des producteurs spécifiques, des gens dans nos entourages, c'est-à-dire des gens qui font voyager les musiques qui sont produites, parce qu'elles voyagent pas toutes seules en fait. Et bah si les intermédiaires sont des intermédiaires qui nous sont familiers, c'est-à-dire si effectivement par exemple ton professeur du secondaire qui lit Télérama, et bah si d'un coup Télérama se met à parler de Grand Corps Malade par exemple, ouais, ou de Abd al-Malik comme c'était le cas à une époque, bah en fait d'un coup tu peux te dire et qui traite la musique de la même manière, c'est-à-dire en regardant la musique pour elle-même et pas en se disant est-ce que les textes reflètent la vie de la banlieue par exemple. Bah du coup en fait ces publics-là peuvent se dire ah mais en fait ces intermédiaires-là à qui je fais confiance vers qui je suis familier, enfin qui me sont familiers peuvent faire en sorte que je peux envisager d'être attentif et de m'ouvrir. En fait ils font ce que donc Aignan dirait, ils donnent une prise. Donc par exemple si on reprend cette espèce d'image là du truc, on te dit bah en fait il y a cette prise là, voilà, exactement, donc tu peux atteindre un truc que tu pouvais pas atteindre avant, c'est-à-dire t'ouvrir à une expérience spécifique, mais potentiellement tu auras une expérience très distincte du truc.
Puis il y a ce média qui me parle, je lui fais confiance peut-être parce que il me représente ou il me parle ou il me ressemble, mais il y a aussi parfois où c'est juste que socialement il a été déterminé qu'il était légitime pour avancer quelque chose, et s'il le dit c'est qu'il a probablement raison.
Exactement, voilà, donc il y aurait ces choses là et d'ailleurs en fait le premier point à faire ça serait de commencer par regarder en fait avant ça si c'est toujours le cas, pour revenir un peu en arrière, mais est-ce que vraiment genre pour aller vite, les bourgeois écoutent plus de musique classique? Déjà il faut toujours vérifier, en réalité on se rendrait compte qu'il y a toujours des distinctions si tu utilises les genres. Alors ça serait une question compliquée, comment on fait, encore une fois, ces registres là comment on fait pour les mesurer, mais mettons qu'on utilise des genres musicaux et qu'on le fasse sur le temps long et qu'on vérifie régulièrement, on verrait qu'il y a toujours cette distinction là et que donc et quand on a plus de capital culturel, tendanciellement, on va préférer la musique classique par rapport aux autres genres, mais ça peut pas vouloir dire qu'on adore tous la musique classique. En gros, ça peut vouloir dire que potentiellement, tu vas avoir 15% de gens qui vont déclarer une préférence pour la musique classique, donc une toute petite minorité, là où dans d'autres classes sociales, t'auras 1%. Donc l'écart entre les classes sociales relatifs, il est très important, mais ça veut pas dire que les bourgeois écoutent tous de la musique classique. Ouais. Ça, ce serait faux, d'une certaine manière. Les bourgeois, ils vont écouter beaucoup de choses.
C'est plus une appétence à, mais sans forcément que tout le monde,
voilà, sans que ça devienne hégémonique. Exactement. Donc là, on va avoir un truc potentiellement où ça va ouvrir à une de ces questions qui ont émergé après Bourdieu, c'est de se dire, il y a des gens qui ont commencé à dire, ah mais en fait, ce qui va distinguer, le même mot en fait, hein, ce qui va distinguer les gens qui ont le plus de capital culturel, c'est pas tellement qu'ils vont aimer les bons trucs, les trucs qu'on va appeler légitimes, la grande musique, etc., et surtout pas les autres, donc une attitude de snob, on pourrait dire, mais c'est le fait qu'ils vont aimer potentiellement plus de genres que les gens qui ont moins de capital culturel. Ils vont consommer, donc ils vont pouvoir dire, voilà, exactement. Donc des gens, un sociologue qui s'appelle Peterson, avec d'autres gens qui publient avec lui, vont appeler ça l'omnivorisme versus l'univorisme. Donc avec vraiment l'idée que tu manges plein de choses ou tu manges une chose. Et donc pour eux, ça va caractériser, dans les classes sociales, avec la même idée de qu'est-ce qui distingue les gens suivant leur classe sociale, on va retrouver ça. Et puis en France, on va avoir des gens comme plutôt Philippe Coulangeon ou Olivier Denat qui vont parler d'éclectisme, qui vont trouver les mêmes choses, c'est-à-dire en fait le modèle vraiment du snobisme, genre dans ta classe là t'as tel goût et tel dégoût et en fait tu te distingues bien proprement, c'est un peu moins le cas et c'est la propension à aimer plein de choses ou à aimer
si je comprends bien l'un des nouveaux goûts entre guillemets des positions plus favorisées au sein de notre société, c'est de dire j'aime Beethoven et Jules.
Alors le problème c'est très péjoratif normalement quand tu dis oh moi tu sais j'écoute de tout, ça veut dire que t'écoutes de rien, tu vois.
Du coup, et pour revenir en arrière, Jules, ça serait justement un cas où peut-être pas Jules. Ouais. Justement, tu pourras dire moi j'écoute de la musique classique et du rap. À l'intérieur du rap, tu choisiras peut-être pas Jules, mais justement Nekfeu, voilà, un truc comme ça par exemple. Donc ça pourrait être le cas.
Mais en fait, parce que socialement, ils sont pas quand même jugés de la même manière.
Exactement.
Jules et Nekfeu.
Voilà, exactement. Ouais. Donc ça c'est pareil. On, évidemment, les sociologues, des fois on est un peu lent, mais on n'est pas tout à fait teubé, heureusement pour nous. Et donc on s'est dit ah quand même, quand les gens ils disent qu'ils aiment tous les genres, peut-être qu'ils regardent à l'intérieur des genres les différents artistes qu'ils aiment bien. Ils vont peut-être pas répondre les mêmes choses. Et quand on a vérifié, waouh, incroyable, effectivement c'était le cas.
Mais qui véhicule cette idée par exemple que Jules c'est pas pareil que Nekfeu et que Nekfeu c'est un peu mieux?
Tu vas loin là quand même.
Non mais là
c'est pas
ça...
pareil, oui. Maintenant il y a pas de
non mais il y a un
de jugement
non mais là c'est pas mon propos à moi, mais je dis, tu sais, ça peut être la vision, c'est de dire tu disais c'est pas la même chose, je peux aimer le rap mais pas tout dans le rap, Jules c'est pas pareil que Nekfeu et Nekfeu ça me parle plus.
Mais même on pourrait dire effectivement genre Mozart et René Latoupe, c'est-à-dire quand tu le passes on se dit pas vraiment qu'on est en train d'écouter une musique qu'on peut considérer, alors que si t'avais passé du Mozart, ça aurait été bizarre qu'on se foute de la gueule de Mozart.
Absolument.
Parce qu'on se serait dit pourquoi.
Tous à notre échelle, on participe parfois un peu à la distinction, voilà, et à des trucs qu'on juge, parfois précipitamment.
C'est pour ça que comparer Mozart et René Latope, vu que les deux musiques n'ont pas la même longévité, sont pas là depuis le même. Enfin, voilà. En fait, c'est un petit peu abusé.
Je sais pas si c'est qu'une question de ça.
Il faudrait mieux comparer effectivement Nekfeu et Jul, où là, c'est. relativement contemporains pour eux. Ouais. Les deux artistes sont sortis quasiment en même temps et ont fait carrière en parallèle.
Tu aurais pu prendre aussi tu parlais de Pierre Boulez encore qui on pourrait prendre
Tu peux dire les Beatles et par exemple Claude François.
Typiquement. Fait, tu vois, là, y a pas, la temporalité va pas tant importer. Okay. C'est plus qu'on se dit, une qualité musicale supposée plus importante chez l'un que chez l'autre.
Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une agence quelque part? Tu vois, l'agence de la fixation de la qualité de la musique.
On a cette idée? Et en vrai, on l'a tous un peu dans notre tête. On est tous habités par ce genre de truc. Après, on l'embrasse plus ou moins. On va plus ou moins le faire nôtre.
Ah ouais.
Mais c'est quand même là un peu.
Déjà, il y a ce que l'artiste propose. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, en tout cas moi, c'est comme ça que je réfléchis. J'ai beaucoup du mal à me dire que un artiste me propose de la qualité en sortant 12 projets par an. Que quelqu'un qui prend 24 mois pour faire un album, t'auras tendance à te dire, il l'a un peu plus taffé, il est pas en auto-fire.
Je suis pas complètement d'accord parce que.
Il y a des artistes que j'adore qui sortent une mixtape tous les 3 mois.
Il y a des compositeurs, d'ailleurs pas forcément pour leur projet solo, mais qui composent toute l'année sans cesse, ou qui ont fait appel, qui sont réputés, etc.
Si tu regardes la disco des Beatles, par exemple, qui est vraiment un groupe qui est vraiment, pour le coup, qui a cette aura maintenant de genre un peu intouchable, du canon de la musique, ils produisaient beaucoup plus de musique que l'essentiel des artistes de musique populaire aujourd'hui.
Mais ce qui est drôle, c'est que les Beatles
par an, potentiellement.
On peut le rapprocher aussi de ce que tu disais pour le jazz, c'est-à-dire que les Beatles au départ, c'était un peu dans les yéyés, c'était un truc
la musique pour adolescentes.
Voilà, déjà. Facile et en fait, je pense que quand les Beatles sont sortis, il y a personne, aucun observateur de l'époque qui avait un certain bagage en musicologie qui disait ça va rester pour la fin des temps. C'est devenu un classique après coup, tu vois. Ouais. De la même manière que le jazz, c'était une musique plutôt populaire et puis maintenant c'est apprécié effectivement dans un certain set où il faut une bonne acoustique et c'est des gens qui sont quand même super techniques, donc c'est très intéressant aussi de les voir évoluer, de les voir produire. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est des trucs qui ont été transfuges de classe un petit peu.
Alors un peu, mais du coup ça reviendrait à la même question que Nekfeu et Jul. En fait, si on se demande comment elle se fixe cette valeur dont on a l'impression qu'elle est pas vraiment fixée, tu vois, c'est pas comme les cours de la bourse où t'as une valeur objectivée, tu vois, un truc comme ça. Là, il y a pas vraiment les cours de la bourse de la musique, quoi. Et pourtant, on voit que ça change dans le temps et que effectivement. On voit qu'il y a des choses qui nous paraissent quand même évidentes sur le fait que les choses n'ont pas la même valeur et sur le fait que si on sort dans la rue là et qu'on va demander aux gens est-ce que René La Taupe et Mozart ou les Beatles c'est la même, je pense qu'on pourrait faire un pari à 10 000 balles que les gens vont nous dire globalement non et qu'on aurait raison.
Et tu disais Bourdieu nous rappelle qu'il faut faire attention à ce qu'on considère comme naturel et un peu comme évident.
Exactement. Donc là ce truc là de fait il est potentiellement vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à croire la même chose à peu près quoi, hein, parce qu'il y a des gens qui n'y croiraient pas qu'est-ce qui fait que ça change. Alors c'est le résultat de plein de petits combats, de gens qui rentrent dans un combat pour dire ça vaut, et d'autres qui disent non, ça vaut pas, c'est ça qui vaut. Et donc, c'est jamais figé, donc c'est le résultat un peu de qui gagne ces petites batailles. Par exemple, l'école, elle rentre dans le combat en disant, on va enseigner à tous les gamins de toute une classe d'âge ces trucs-là. Et donc en musique, et donc moi j'ai une collègue qui s'appelle Florence Éloi, qui a fait sa thèse sur l'enseignement de la musique au collège, et qui a fait un super bouquin tiré de ça, donc je vous recommande la lecture.
Elle s'intéresse à ça aussi, Salman.
Ouais, et donc elle regardait les programmes de l'enseignement de la musique au collège depuis les années 30 de mémoire jusqu'à 2008, qui étaient les derniers programmes qu'elle regardait, et quelque part, c'est un des endroits où on dit, dans toute la musique qui existe, nous on va décider qu'on va transmettre ça à tous les enfants d'une classe d'âge, ce qui est quand même un truc assez genre si t'essayes de faire un truc plus costaud que ça, vraiment c'est difficile quoi.
C'est du conditionnement.
Et donc on voit un des espaces où on essaye de transmettre la croyance à des enfants que il y a des choses qui sont super, d'autres choses moins super, soit parce qu'on n'en parle pas, soit parce qu'on dit explicitement d'ailleurs que c'est pas super. En littérature, on peut vraiment dire à partir d'un certain moment, tel livre c'est quand même moins bien les petites romances à l'eau de rose que tu lis au collège. Au bout d'un moment, au lycée, on te dit ton prof de littérature ou ta prof de littérature, elle te fait comprendre d'une certaine manière que c'était super pour prendre du plaisir, mais maintenant il faut passer un peu aux choses sérieuses et on va faire une étude de texte du truc. En musique, en réalité, il y a un peu de ça aussi. Et donc elle voyait par exemple que il faudrait discuter de ça encore un peu après, mais on est passé vraiment du truc de la grande musique, on a arrêté de dire ça au bout d'un moment, mais que quand même tous les genres n'étaient pas cités de la même manière dans les programmes. Par exemple, le rap, même en 2008, il n'était pas cité dans les exemples, dans les trucs qu'il fallait transmettre. Et si vous rappelez de vos cours de musique au collège, c'était pas tout azimut d'une certaine manière. Ouais. On pourrait tous dire qu'on a écouté un moment ou un autre de la musique classique. C'est probable qu'on ait écouté du jazz ou de la chanson française, et notamment une chanson française qui est reconnue. Mais on n'a pas écouté effectivement Calogero. Des fois des gens ont chanté Goldman. Hein, donc c'est pas homogène et tout quoi. Mais on voit que c'est un des espaces. Et donc il y a plein d'autres espaces, des médias. Je sais pas, tu vois, si on compare ce que c'est pas les victoires de la musique par exemple, ils participent à dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien. Mais mais à l'intérieur du marché. Puis il y aurait d'autres prix et d'autres médias qui disent, mais ça, c'est vraiment genre mainstream. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est ça. Et donc, bah, tous ces gens-là participent à un combat pour essayer de dire qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Et ces gens-là, ils ont pas le même pouvoir. Si moi, je me pointe et que je dis, ça, c'est super, si je fais une reco à la fin de votre émission pour dire ça, c'est vraiment super.
Ce qu'on va faire.
Bah, ça ressemblera juste à mon avis. Et donc, mon avis à moi, qu'est-ce que ça va valoir? Et par contre, si, tu vois, nous, on le fait avec Filset, quelque part, d'une certaine manière, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Ça, c'est une autre question.
Mais, donc, ouais.
Voilà, exactement. Cette smack-là, quelque part, en programmant des artistes, on participe à dire, ça, c'est bien. Ou en aidant des artistes plus que d'autres, on peut dire, indirectement, ça revient à dire, cette musique-là, elle mérite parce que elle est mieux. Et donc, bah, on rentre un peu dans cette bataille-là, aidé par de l'argent public, pour défendre, à l'intérieur des musiques populaires, des trucs qu'on voit comme mieux faits que d'autres. Et donc, bah, c'est jamais figé, et c'est toujours le résultat de cette bataille-là.
Il y a un tri qui est quand même effectué, ouais. Parce que sinon, dans un monde absolument idéal, des gestionnaires de salles comme vous, par exemple, prendriez absolument n'importe quel artiste qui correspond à, par exemple, une taille, tu vois, ou une discographie, ouais. Où on se dit, voilà, si on est un artiste émergent, par exemple, il n'y aurait pas de choix à faire à l'entrée. C'est-à-dire que si t'es un artiste émergent, que t'as sorti un projet, quel que soit le type et tout, tu devrais pouvoir passer sur scène.
Ouais.
Alors qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas le cas.
Ouais. Voilà. Et donc, la manière qu'on a, nous, de choisir, elle revient à cette question de stratification. En réalité, on se rendrait compte que si on regarde, par exemple, les structures culturelles qui sont financées par de l'argent public, comment elles choisissent ce qu'elles mettent sur scène, bah, on se rendrait compte que ça correspond plus au goût des classes sociales supérieures. En fait, c'est assez imbattable, hein, si on regarde les programmations des endroits qui sont financés par de l'argent public. Et donc, bah, qu'est-ce qui prend le plus d'argent public en musique? Ça serait, par exemple, l'opéra, la philharmonie à Paris, ce genre d'endroit. Et qu'on regarde qui aime ça dans la population en général. Eh ben, on va voir que c'est pas n'importe qui et que c'est plutôt, effectivement, les classes supérieures. Donc, on retrouve ce truc-là.
Mais il y a des fois des politiques, justement, d'ouverture. De rendre, par exemple, l'opéra plus accessible pour
ouais, mais il y a plus ça que l'inverse. Parfois aussi. Tu vois, c'est-à-dire
oui,
que
c'est là où on
met déjà l'argent, il y a peu de gens, on dit venez.
Ouais.
Par contre, là où il y a beaucoup de gens, mais on met pas d'argent, on dit pas tiens, nous, on va peut-être aussi faire un peu d'effort.
Ouais, enfin, moi, en tout exactement. Cas. Voilà,
c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait avoir genre un opéra dans une cité à Montfermeil.
Tu sais quoi? Ça sera la troisième partie, la dernière partie de ce podcast. On parlera justement des institutions, etc., du rôle potentiel. Est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Est-ce qu'il y a besoin ou pas d'ailleurs? Mais on pourra, ouais, voilà, tu vois, l'action, entre guillemets, après avoir un peu réfléchi sur le constat, entre guillemets.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que cette image qu'on peut avoir et qu'on va retrouver dans un film comme Intouchable, ou un peu les exemples que tu prenais, un peu du truc un peu snob, c'est-à-dire bah, les vieux bourgeois qui vont écouter de la musique classique et les jeunes de cité qui vont écouter que du rap. En partie, ça va décrire la réalité, mais c'est vraiment une version qui serait vraiment une version extrêmement stéréotypée de la réalité. Donc on va avoir ce truc-là où, même encore aujourd'hui, tout le monde écoute pas tout le monde écoute pas tout, au sens de tout le monde aime pas tout, tout le monde a pas les mêmes dégoûts. Donc on va retrouver une question de classe sociale. On va avoir cette idée que en réalité dans les classes supérieures il va y avoir un peu plus d'éclectisme que dans les classes populaires. En réalité qui est pas du tout un éclectisme qui va aller tout azimut, puisqu'effectivement ben peut-être qu'il va dire pas jusqu'à René Latoupe ou Jules par exemple, mais on va avoir à l'intérieur des catégories des choses comme ça. Donc en fait ce que Bourdieu avait pointé, on a beau reproduire les enquêtes plein de fois, cet effet-là on va le retrouver. Et ça, donc ça veut dire que suivant comment on est né, suivant les familles dans lesquelles on a grandi, ça structure nos goûts, qu'on le veuille ou non, indirectement, inconsciemment, etc. C'est pas nos parents qui nous disent, comme tu viens d'une classe supérieure, tu vas écouter ça, mon fils. Évidemment, c'est pas du tout aussi mécanique que ça.
Et ça, puis, ça peut pas l'être, d'ailleurs, ça.
Bah, si, il y a plein de moments où vous vous rappelez pas, vous, peut-être vos parents qui vous disaient, mais tu baisses ta musique de merde, là.
Oui, bien sûr.
Et il y a d'autres musiques, potentiellement, ils vous auraient dit, bah, là, aujourd'hui, par exemple, si un enfant se prend de passion pour la musique classique, peut-être que les parents vont pas lui dire, arrête, alors que, effectivement, s'il écoute du rap hardcore, c'est possible que les ils disent, je m'inquiète pour lui quand même. Donc, y a vraiment un truc, on voit que suivant ce qu'on veut pour nos enfants, on voit bien que les différentes musiques n'ont pas la même valeur.
Je prends un exemple. Bon, alors que moi, c'était plutôt ouvert à la maison. Et par exemple, donc je fais de la guitare. J'ai commencé adolescent à faire de la guitare. Et autant, c'était cool quand je faisais de la guitare sèche, de la guitare classique. Ouais. Quand j'ai dit que je voulais faire de la guitare électrique, il y a eu un tout petit truc, petite résistance, tu vois, chez les parents, quand même.
Normal, en tout cas classique.
Donc il va y avoir ces trucs-là, quoi. Mais effectivement, donc, non seulement on a ces goûts qu'on intériorise et qui sont liés aux environnements sociaux dans lesquels on vit, mais ça produit après des choses dans la société. Ça produit le fait qu'on est plus ou moins fier, ça produit le fait qu'on est plus ou moins reconnu comme étant légitime, et donc ça participe à faire que les structures sociales se maintiennent alors qu'elles pourraient être complètement changées. Ça, c'est vraiment un truc important qu'il faut garder en tête. Ça nous structure de l'intérieur et ça produit quelque chose à l'extérieur. Ça, c'est un truc important.
T'abordais un point tout à l'heure que je trouvais super intéressant, c'est qu'effectivement, t'évoquais globalement avec l'évolution et la modernité le potentiel changement de paradigme en termes de consommation musicale, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'est toujours défini par des genres musicaux, et toi, t'as évoqué, par exemple, les playlists.
Ouais.
Est-ce que ça serait pas impossible que dans 30 ans, je sais pas, il n'y ait plus cette notion de moi j'écoute du rap, moi j'écoute ceci, mais plutôt des gens qui disent moi j'écoute workout, moi j'écoute chill, moi j'écoute...
Est-ce que c'est les qualificatifs, les registres les plus pertinents? C'est vrai cette histoire de genre, ou est-ce que comme le Dida, ça peut évoluer avec le temps?
En fait, ça c'est une immense galère, parce qu'effectivement, donc si tu dis allez, on va mesurer les goûts des gens, et ben comment tu fais? C'est-à-dire si tu veux faire un questionnaire, soit tu leur dis genre de tout le monde dire les goûts comme ça vous vient, de qualifier les musiques que vous aimez, et donc tu te retrouves avec une sorte de patchwork de données qui sont très difficiles à comparer. Le but d'un questionnaire, c'est d'arriver à rendre les choses comparables, quoi. Soit tu vas leur proposer une liste fermée où tu vas mettre
là,
ensemble des choses.
De fou, quoi.
Et bah oui, parce que alors, mettons même que des gens aient tous répondu, mettons que des gens aient répondu rap, ça se trouve, ils entendent pas du tout la même chose par rap, où il y a même des catégories qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Si tu mets, pop international, qu'est-ce qu'on met dans pop international? Ouais. Tu vois, il y a plein de...
Et il y a plein de gens qui écoutent de la musique sans être capable de qualifier.
Exactement. Et en fait, ils vont l'appeler tout à fait autrement. Par exemple, il y a plein de gens, ils aiment bien, par exemple, je sais pas moi, les hits, en réalité. Ouais. Énergie, ils disent pas du tout, on est fort sur telle catégorie esthétique. Ils disent,
premier sur les hits.
Voilà. Ouais, et donc, en fait, qu'est-ce que t'écoutes quand t'écoutes énergie? T'écoutes des hits. Et bah, il y a plein de gens, ce qu'ils aiment bien, c'est des musiques qui sont populaires et qui sont efficaces pour remplir des fonctions. Donc ils aiment bien des musiques qui se dansent, par exemple. Driss dans Intouchable, il dit quand Philippe essaie de lui faire écouter de la musique classique, il lui dit moi de la musique qui se danse pas, c'est pas de la musique. Donc en fait ce qu'il aime bien, c'est de la musique qui se danse. Peut-être que ça pourrait être plein de musiques différentes, mais donc il y a plein de sociologues qui disent ah ben enfin en fait ça se trouve la méthode elle est pas bonne. Si on essaie de passer par les genres, c'est pas bon. Donc on a essayé plein de trucs différents. Il y a des gens, ils ont fait ce truc là de dire bah on va laisser la question comme on dit ouverte, genre écrivez dans toutes lettres les musiques que vous aimez bien et après on va essayer de retrouver un sens là-dedans. Et des gens qui testent avec des artistes, et puis on pourrait effectivement tester autrement, mais en fait on n'est pas obligé de faire que des questionnaires. Moi j'ai fait des questionnaires avec des adolescents, mais j'ai beaucoup fait d'entretiens. Et donc quand tu fais des entretiens, tu fais ce qu'on fait un peu là, on discute pendant 2 heures, et là tu peux t'intéresser à qu'est-ce qui fait sens pour les gens. Et donc bah ouais, par exemple il peut y avoir des garçons qui disent bah en fait il y a tout un enjeu de pas aimer des trucs de meufs ou des trucs de tapettes, par exemple. C'est un enjeu de virilité qui est associé à qui aime ces musiques et qu'on associe un peu à dans la musique en elle-même, dont on a l'impression qu'il y a des caractéristiques féminines dans la musique qui sont pas du tout naturelles évidemment féminine, mais donc bah ça peut être une catégorie qui structure nos goûts de manière beaucoup plus importante que le genre esthétique en lui-même. Donc en fait, pour essayer de connaître les goûts, il faut essayer d'être un peu fort là-dessus, et donc en sociologie, il faut qu'on arrive à se dire comment, c'est pas uniquement qui aime quoi, c'est pas la question du qui uniquement qui compte, c'est le quoi, c'est-à-dire comment on fait pour mesurer, pour ranger ensemble des choses qui sont très distinctes. Donc là, ça nous permet de voir, par exemple, quand on commence à regarder ça, qu'en fait, des fois, c'est pas tellement les genres qui vont faire la distinction, c'est la manière qu'on a d'évaluer la musique ou de la catégoriser ou de l'évaluer. Donc bah qu'est-ce qui réunit une playlist workout par exemple, c'est que toutes ces musiques là qui sont dans ta playlist, elles sont efficaces à remplir une fonction, elles te chauffent pour faire ton sport. Ouais. Et si on fait une analyse musicologique de la playlist, il y aura peut-être des trucs, voilà, de l'EDM, du rap, peut-être de la chanson, tu vois, on s'en fout, mais
avec ces similarités esthétiques qui permettent
ou d'ailleurs peut-être même pas, mais juste elles font un même effet à ton corps, elles sont efficaces pour te faire faire du sport. Et donc quelque part bah t'as un goût pour une catégorie qui est une musique efficace pour me faire, et en fait il y a plein de gens qui aiment ça en fait, quand des gens qui aiment bien faire la fête, ils ont des goûts pour des musiques efficaces pour faire la fête. Donc des fois les genres esthétiques, c'est pas du tout les bonnes catégories pour comprendre vraiment comment ça existe dans le corps des gens.
Et la sociologie n'a pas encore trouvé de modèle pour dépasser.
On en a plein, mais des fois une des difficultés, c'est quand on veut le faire à l'échelle d'un questionnaire, parce que si tu fais des entretiens, tu peux vraiment aller dans la singularité de moi. Si je fais une discussion avec vous et que je vous parle de musique, bah ouais, en fait, vous allez pouvoir m'expliquer vraiment comment c'est exactement dans votre tête et dans votre petit cœur qui aime la musique. Mais si on le fait dans un questionnaire, on peut pas aller dans cette singularité-là, donc on est obligé de trouver une manière de rendre les choses comparables.
Parce que l'idée, c'est qu'on va récolter des données, ensuite les données, faut les traiter, et si elles sont pas un peu catégorisées, c'est impossible à traiter.
Du coup, tu peux plus comparer, donc ça ne sert plus à rien. Or, si on veut pouvoir prouver, par exemple, que ça existe toujours cette histoire de stratification sociale, c'est-à-dire que les différentes classes sociales aiment pas les mêmes choses, eh ben, on est un peu obligé de faire des questionnaires, parce que c'est le seul moyen de pouvoir prouver en demandant à beaucoup
de gens.
Parce que sinon, en fait, tu pourrais toujours dire, bah oui, mais faire des entretiens, est-ce que ça sera suffisant pour représenter les classes sociales, pour être représentatif? Bah oui, en fait, le questionnaire, ça reste une bonne méthode. Donc, ça sera jamais parfait. Le truc qu'il faut qu'on essaie de faire en sociologie, c'est prendre ces questions-là au sérieux. Quand t'as des gens qui me disent, bah oui, mais le genre, c'est peut-être pas le bon truc, de se dire, ah ouais, merde, c'est peut-être pas le bon truc. Donc, il faut qu'on ait une méthode plus adaptée pour se rapprocher pour être le moins faux possible, quoi.
Il y a un truc quand même, parce que je reviens tout petit peu en arrière, on parlait de Jul, etc. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que le mépris indéniable dont a été l'objet de Jul a évolué avec le temps. Je pense à ce qui au projet
même, ouais.
Je pense au morceau Bande Organisée, de Très Organisé, qui lui est rentré dans la culture populaire et je dirais pas non plus que c'est chez toutes les classes, chez toutes les générations, etc. Mais on sent qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé avec ce morceau spécifiquement, qui est quand même identifié. On identifie Jul avec ce morceau clairement. Quand même, et qui a dépassé un peu le mépris.
Beaucoup, 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 beaucoup d'écoutes de Jul second degré, mec du 11e.
Mais vraiment. Franchement, je pense que ça a évolué.
Oui, tout mais comme... c'est comme les gens qui portent la moustache de manière ironique et qui au final se découvrent aimer vraiment ça et gardent la moustache après.
Tu vois, je prends un autre exemple, PNL.
Bah, PNL ou Aya Nakamura aussi, pareil.
Aya Nakamura, il y a eu plein d'incompréhensions, ouais, petit à petit. Ouais. Et j'en reviens quand même à cette histoire, c'est que tu nous disais, si j'ai bien compris, on l'a dit, hein, mais je reviens là-dessus, insister là-dessus, c'est une des nouvelles formes quand même de la distinction, même si l'ancien modèle est toujours valable, ouais. C'est de dire les gens qui ont des privilèges dans cette société, qui sont plutôt dans des classes favorisées, se distinguent aujourd'hui, c'est une spécificité moderne, si j'ai bien compris quand même, par le fait qu'ils ont une forme d'éclectisme qui s'intéresse à des trucs différents, variés. C'est quand même un changement profond, non, alors, je dis une bêtise.
Enfin, si, alors c'est pas si moderne que ça en réalité. Okay. Donc vraiment les premiers résultats, c'est début des années 90, donc ça commence à faire un petit peu. Et puis en fait là, donc moi j'ai un collègue qui s'appelle Samuel Kohavu qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là et qui me disait en regardant plein de d'études là-dessus, en faisant les études de son côté, qu'en réalité sans doute c'était le cas avant, mais qu'on le mesurait moins bien. Et que il est sans doute moins fort cet éclectisme qu'on l'imagine, c'est-à-dire en fait si on essaie de regarder précisément justement en se disant bon attends, si on va au-delà des genres, si on regarde par exemple les artistes, si on regarde d'autres trucs, ben en fait on se rend compte que il y a des formes de snobisme qui restent quand même d'une certaine manière. Donc voilà, je vous flèche vers Samuel Kohavu et ce qu'il fait. Mais il y a quand même ce truc qui existe et qui reste vrai, c'est-à-dire on va retrouver plus d'éclectisme qu'on appellerait éclairé. Moi j'aime bien utiliser ce truc-là parce qu'en réalité c'est pas comme si tu manges de tout sans distinction, c'est que tu vas manger peut-être dans plein de genres, mais que tu vas choisir les choses de qualité. Cette qualité, elle est plutôt esthétique. Et je pense qu'il y a un truc pour des artistes comme Aya Nakamura, Jul, etc. C'est le fait que le snobisme de classe qui va avec est en fait un peu inassumable aujourd'hui. C'est-à-dire il y a aussi une vague qui existe depuis plusieurs décennies où plus on est cultivé, plus on est tolérant. C'est la tolérance, c'est une valeur qui est de plus en plus importante avec le cosmopolitanisme. J'ai du mal avec ce mot tout le temps. Et donc je pense qu'il y a un truc où à un moment ça devient vraiment trop clair que le dégoût de Jul, etc., en fait, c'est
un mépris
de classe, de race. Et donc au bout d'un moment, en fait, afficher ce dégoût-là, ça nous apporte pas du tout des points symboliques. Au contraire, on a l'air plutôt un peu d'un pauvre type. Et donc, il y a un peu un gain à s'ouvrir à une tolérance de quelque chose pour lequel, en fait, les autres trouvent que c'est méprisable. Et ben, moi, j'ai la grandeur de voir l'intérêt dans ces choses-là. Je pense qu'il y a vraiment...
un calcul, en fait,
pas volontaire,
un social. Ouais, mais
toujours un calcul inconscient. Moi, ça, c'est une hypothèse. Ouais. Il faudrait faire l'enquête pour vraiment la vérifier, mais elle me paraît très logique avec ce qu'on sait de l'augmentation de...
Quelle question tu poserais là-dessus?
Bah, c'est là que c'est le truc.
Est-ce que vous aimez vraiment, ou alors est-ce que c'est pour pas avoir l'air d'un sale con, d'être un sale con?
Mais non, mais donc typiquement là, il faudrait plutôt effectivement faire des entretiens pour essayer de regarder quelle place a Jul ou Aya Nakamura dans les historiques d'écoute des gens, à quel moment ils les écoutent, comment ils en parlent, etc. Et donc là, tu peux essayer de déterminer. Mais évidemment, si on pouvait accéder à la vérité des gens dans leur tête très pure, je pense qu'on donnerait nos types à la police, par exemple, et au juge, parce que ça serait très pratique. En fait, on pourra jamais savoir exactement comment c'est à l'intérieur des gens.
Avec les plateformes, avec justement, si par exemple, on avait reçu des data scientists chez Deezer notamment, mais Deezer, Spotify, Apple Music, si tu avais accès en fait à la data de consommation avec justement des profils de d'auditeurs, je pense que justement ça permettrait complètement de, parce que ces plateformes là nous connaissent mieux.
C'est un rêve de sociologue en termes de données.
Se fait complètement, donc
d'ailleurs on en avait parlé, ils avaient des liens avec la recherche
carrément. Donc Samuel Kohavu, il travaille avec des gens de Deezer et donc ils avaient fait une enquête qui était avec un collègue à lui qui s'appelle Jean-Samuel Buscar et Sisley Maillard, je crois que ça se dit son nom, c'était sa thèse à elle, et c'était, ils avaient pris 4 mois d'écoute de Deezer sur en choisissant de manière aléatoire des auditeurs et regarder qu'est-ce qu'ils écoutaient. Et donc c'était assez nouveau, et effectivement c'est un peu un rêve, parce que t'accèdes à ce que nous, quand on fait les enquêtes ce qu'on appelle les enquêtes pratiques culturelles des Français, qui sont des enquêtes menées à peu près tous les 10 ans par le ministère de la Culture depuis les années 70, en fait c'est du déclaratif. Donc là on se dit mais en fait on va accéder à quelque chose d'autre,
même
etc.
si ça a de la valeur, comment les gens se représentent et bien sûr, exactement, d'eux-mêmes.
Ce serait intéressant en fait de faire les deux,
voilà, c'est vrai. Donc il faut faire les deux. Donc là maintenant il y a les bons sociologues, de mon point de vue, sont ceux qui disent on regarde dans les deux méthodes ce que ça nous apprend et on voit les choses. Par contre, le piège un peu, c'est que, mettons que toi, t'as un mouchard dans ton téléphone et qu'on regarde ce que t'écoutes sur Deezer, Spotify ou YouTube, il y a plein de trucs que t'as écouté qui traduisent pas du tout tes goûts. En fait, ce qu'on fait, nos pratiques effectives, elles veulent pas forcément dire qu'on aime. Il y a plein de trucs que t'as écouté pour voir ce que c'était, mais en fait, t'as trouvé ça bidon. Il y a plein de trucs que t'as écouté en soirée pour délirer avec des potes, mais comme tu disais, c'est vraiment une écoute au second degré. Et en fait, on s'en fout un peu. Il y a des trucs que t'as écouté pour endormir ta gamine, mais c'est quand même dans ton téléphone. Donc, si on déduit de ce que tu fais tes goûts, potentiellement, on se trompe.
Ce sera un pattern, peut-être, de nombre d'écoutes, de répétitivité, de...
Alors, ça pourrait, tu vois, on peut déduire de ça. On pourrait regarder aussi à quel moment,
par exemple, durée d'écoute.
Voilà, donc là, Samuel, il me disait, par exemple, il y avait des morceaux, on voyait qu'ils étaient écoutés, genre le samedi soir un peu tard. Bon, ces morceaux, sans doute, c'est pour faire la fête.
Okay.
Donc, si tu regardes, tu vois, avec les quelques informations que tu peux avoir, il y aurait ça, par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Donc, on peut essayer d'estimer. Mais du temps que tu fais pas quelque part d'entretien, tu peux jamais déduire juste de la pratique. Tu peux jamais être sûr que c'est des goûts. Donc, pour ça, faire des entretiens, ça nous aide vraiment, parce qu'on peut vraiment essayer de voir, les gens, genre, sur 10 musiques qu'ils écoutent, ils peuvent les placer. Genre, celle-là, vraiment, c'est très important pour moi, ça me définit. Tu vois, c'est la musique que tu emporterais dans ton île déserte. Et des fois, tu l'écoutes pas si souvent que ça, parce que tu veux que ce soit dans des moments spéciaux, que tu veux pas gâcher, etc. Ouais. Donc, si tu regardes si tu l'as écouté souvent, peut-être pas. Et peut-être, il y a cette musique comme ça qui te sert à te réveiller le matin, tu l'écoutes tous les jours pour te réveiller le matin, mais
non, en fait tu l'aimes pas plus que ça.
Elle est efficace, mais tu pourrais pas dire que tu étais passionné par cette musique. Toi, je pense qu'on pourrait même dire en sortant de la musique que on passe beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on aime faire ça? Sans doute pas, mais nos téléphones, si on demande à nos téléphones qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, ils vont te dire t'aimes beaucoup scroller les réseaux sociaux, et tu vas être là genre non.
Ouais.
Par contre, j'aime beaucoup, je sais pas moi, faire de la randonnée, et je fais ça en fait presque jamais parce qu'il faut du temps, etc. Donc en fait, il faut faire d'autres méthodes pour essayer de voir ça, quoi.
C'est complexe.
C'est honteux parce que j'ai noté une phrase que j'ai trouvée dans un texte et j'ai pas noté l'auteur, etc. Donc je sais plus où c'est que je l'ai tiré. Mais en gros, c'était une hypothèse qui était émise par un sociologue, il me semble, et qui disait en gros que l'hétérogénéité croissante de la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures pourrait être vue comme une cause de la montée des goûts populaires. Est-ce que quand même aussi je sais pas si c'est juste ou pas, mais je trouvais ça intéressant, l'idée de les structures et les catégories sociales sont mouvantes aussi. C'est-à-dire que la société française d'aujourd'hui n'est pas exactement structurée. Alors il y a toujours la question des dominants, des dominés, etc., indéniablement. Mais pour autant, c'est mouvant tout ça, et donc ça peut se traduire aussi dans les goûts, et voire faire évoluer une telle catégorie sociale comme elle est plus constituée exactement de la même manière, même si elle a le même pouvoir, mais c'est plus exactement la même personne, et donc ils ont des goûts différents, et on le voit derrière.
Ouais, je pense que c'était potentiellement Philippe Coulangeon qui disait ça, parce que donc il a fait un bouquin il y a pas très longtemps où lui il regarde beaucoup. Effectivement, à l'époque de mon père, moi, il y avait 20% d'une classe d'âge qui avait le bac, par exemple. Donc avoir le bac, c'était un truc entre guillemets d'élite, et de fait les enfants qui avaient le bac, c'était des enfants de classe supérieure plutôt, hein. Et aujourd'hui, on a 80% d'une classe d'âge qui a le bac. Peut-être que là je suis plus tout à fait à jour, mais on va dire dans ces eaux-là, quoi. Donc évidemment, avoir le bac, c'est plus du tout distinctif, et même faire des études supérieures, en fait l'essentiel des gens font des études supérieures. Donc quelque part, on se rend compte que si on regardait les gens diplômés du supérieur aujourd'hui et il y a 30 ans, ce serait pas les mêmes, et il y a 50 ou 60 ans, ce serait encore très différent. Et donc lui, un de ses questionnements, c'est genre qu'est-ce que ça fait du fait que la durée de la scolarité soit allongée, etc. Et il va effectivement arriver à ces trucs-là. Du coup, on a des classes supérieures qui sont un peu plus ouvertes aussi, parce qu'en réalité, elles viennent de classes sociales qui sont un peu distinctes. Elles peuvent venir de classes moyennes, par exemple, et donc avoir des goûts un peu distincts. Et puis, l'école potentiellement agit aussi sur nos goûts, parce qu'en fait, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, en réalité l'école participe à faire à structurer quelque chose dans nous, même si c'est juste la reconnaissance que des choses sans doute sont bien, même si on sait pas pourquoi elles sont bien exactement, mais que sans doute les trucs sont bien. Donc cette histoire de légitimité culturelle, on en a pas vraiment encore dit le mot, mais effectivement c'est ce truc là donc effectivement la société change. Et donc si on se dit juste les classes supérieures aiment ça, en fait c'est pas du tout une règle immuable dans le temps, c'est-à-dire parce que le ça change, et qui constitue les classes supérieures, ça change aussi. Donc effectivement, ce qui est important, c'est est-ce que à un moment donné, dans une structure de classe donnée, est-ce que les gens font les mêmes choses aujourd'hui ou pas? Est-ce que les gens aiment les mêmes choses aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est une sorte de, on est dans un moment de grand mélange où tout le monde après tout aime les mêmes choses, et tout le monde aime en bande organisée par exemple, ou pas? Et donc il faut continuer à le vérifier, et on se rend compte quand on vérifie que pas, en général. Et puis est-ce que les choses qu'on aime bien, c'est dans un monde horizontal dans lequel c'est juste des différences, après tout telle classe aime ci, telle classe aime mi, mais c'est chacun ses trucs, ou est-ce que ça, c'est des inégalités au sens de ça donne d'une manière ou d'une autre du pouvoir, c'est associé à du prestige, à la classe, à la distinction. Et là c'est pareil, en fait Bah, si on se donne des moyens un peu de vérifier, on va se rendre compte que toujours oui. Mmh. Donc ces structures-là bougent pas, le contenu des classes sociales, le contenu des objets culturels changent, mais ces espèces de petites mécaniques-là, elles prennent des formes différentes avec l'éclectisme, etc. Mais eh ben, c'est toujours là. Et on peut regarder dans différents moments à différents endroits et on a quand même ces espèces de traces qui sont là, on va dire, quoi. Et
ouais. C'est là que la politique intervient, ou la consommation, enfin l'innovation, la consommation. Par exemple, je sais pas, si avant, avoir un piano chez soi, ça coûtait une fortune, et que là, t'as Casio qui te sort un piano électronique qui coûte pas grand chose, fatalement, tu vas intéresser des gens au piano qui n'auraient pas eu accès, et ça va muter le rapport à l'instrument et le rapport à ce goût musical-là sur...
Même si malheureusement, l'accessibilité financière ne détermine pas forcément ensuite la mécanique qui va te pousser à dire « j'ai envie que mon enfant le fasse ». Même si c'est accessible, encore faut-il...
C'est vrai qu'on a eu beaucoup de flûtes à l'école et au final, personne n'est flûtiste.
Encore faut-il être habité par des représentations, etc. où tu dis « mon enfant, ce serait bien qu'il fasse cet instrument-là et j'ai envie de le pousser à faire ça ». Il y a peut-être d'autres considérations ou d'autres trucs qu'on va valoriser en fonction de notre classe sociale, etc.
On pourrait dire qu'il y a d'autres trucs qu'il faut considérer, mais que quand même, ce qu'on appellerait les conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire si on a des sous, par exemple, moi je suis musicien en partie parce que mon frère et moi, on grandit dans une famille où on nous achète des instruments quand on voit qu'on a envie de jouer de la musique, donc on a des instruments. On vit dans une maison, là en l'occurrence dans les montagnes, donc c'était un peu plus logique de vivre dans une maison qu'à Paris, mais quand même assez grande, où mes parents nous insonorisent une pièce où on peut faire du bruit sans déranger personne. S'il n'y a pas la place de faire ça, si on n'a pas des instruments, même si j'ai envie, donc ce qui serait en fait le truc le plus compliqué, hein, je pourrais pas le faire. Donc d'une certaine manière, on voit que avoir des moyens financiers, c'est pas suffisant, sinon on verrait que tous les gens qui ont les moyens financiers font les mêmes trucs, donc c'est pas le cas, et que si on abaisse le coût des choses, comme en fait la politique culturelle le fait, ça génère pas mécaniquement l'accès à des trucs, mais on voit que ça compte pas pour du beurre d'une certaine manière, si on n'a pas d'espace pour jouer, d'instruments pour jouer, accès à des trucs qui coûtent quand même un peu des sous et qui nécessitent des moyens, on a moins de chances de faire les choses.
J'ai deux petites questions et après on passe à la dernière partie. La première question, c'est, on a dit que les classes favorisées cherchaient à se distinguer en partie par une forme d'éclectisme. On a compris que les structures quand même de domination globalement persistent, mais que ça peut prendre d'autres formes. Est-ce que ça signifie que dans les classes populaires, on observe qu'il y a un truc un peu unilatéral de « je m'intéresse à tel truc, je suis expert dans tel truc et je le valorise, je le... »
Oui, alors il y a plein de gens qui ont bossé d'ailleurs sur ces capitaux culturels qu'on appellerait un peu spécifiques, par exemple, quoi. Et donc par exemple, si là tu regardes des adolescentes qui aiment bien la K-pop, par exemple, tu peux t'y connaître vachement bien dans un domaine culturel qui est pas très valorisé à l'échelle de la société, parce que justement, en réalité, comme c'est écouté plutôt par des adolescentes, donc c'est des jeunes et c'est des filles, donc ça fait moins de points dans les deux cas dans la valeur symbolique des choses, quoi. Globalement, quand quelque chose est fait par des femmes, souvent ça a moins de valeur dans le monde social dans lequel on vit, quand c'est caractérisé vu comme féminin. Mais à l'intérieur de leur groupe de potes et à l'intérieur d'une sorte de communauté d'auditeurs de K-pop, ça peut être des ressources qui leur donnent une classe à l'intérieur de ce monde-là. Et donc elles peuvent être vues comme des gens qui vraiment pèsent, savent des choses, mais à l'intérieur de ce monde-là. Ça veut dire que si elles sortent de ce monde-là, c'est comme une sorte de... Tu vois, si t'as des billets de Monopoly, quand tu joues au Monopoly, t'as beaucoup de billets, au Monopoly, t'es fort, mais si tu sors et que tu veux acheter un appartement pour de vrai avec tes billets de Monopoly, on va un peu trironner. Ça serait un peu la même chose, c'est-à-dire à l'intérieur de ce monde-là, il y a une monnaie qui vaut quelque chose, donc ce savoir-là spécifique, et donc il peut être vraiment un savoir populaire, mais à l'école, potentiellement, ça va peut-être pas beaucoup t'aider, et puis dans le reste du monde, t'auras peut-être pas l'immense classe en disant je m'y connais vachement en K-pop, je suis dans une armée de tel pour défendre tel artiste, etc. Et bon, ça marche pour la musique, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de les classes populaires, ils peuvent très bien s'y connaître super bien en foot, ils peuvent très bien s'y connaître super bien en mécanique, et ils peuvent par exemple être vachement plus malins que moi sur tous ces trucs là et pourtant le fait que moi j'ai fait une thèse de sociologie fait que globalement on me voit comme quelqu'un de plus intelligent que quelqu'un qui sait réparer un moteur ou monter un mur pour qu'il soit droit, étanche à l'air et à l'eau par exemple, quoi. Alors que c'est quand même pas mal d'arriver à faire ça en vrai, et c'est plutôt un savoir que j'aimerais avoir personnellement, que j'en ai absolument pas malheureusement. Mais donc on voit effectivement que si tu peux avoir ça, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît collectivement comme un savoir qui vaut quelque chose. Et en fait les ça, savoirs spécifiques des classes populaires, tendanciellement, ils ont moins de valeur que ceux des classes supérieures.
Ça, c'est 100% aussi des choix politiques.
Bah, c'est pareil, c'est, il y a des choses qui sont traduites par de la politique. Donc, par exemple, je sais pas, tu vois, les salaires que tu associes à des savoirs. Donc, si toi, tu sais faire des super beaux PowerPoint et que tu travailles chez McKinsey, bah, ça vaut très, très cher.
Oui. Et alors que si enfin, tu ça sais, dépend qui gouverne, mais oui.
Voilà. Alors que si tu sais, par exemple, je sais pas, moi, t'occuper d'un enfant ou d'une personne âgée pour éviter que cette personne décède et vive dans des bonnes conditions, ça vaut moins cher. Donc, quelque part, on voit que, et on pourrait très bien dire, bah voilà, politiquement, on intervient pour modifier les salaires, etc. Donc, la politique peut intervenir dans le truc, mais, il y a quand même cette histoire où on croit collectivement que ces choses-là sont vraies. C'est-à-dire, on croit collectivement que moi, en ayant fait une thèse de sociologie, je suis plus intelligent. Ah, t'es une tête, toi, tu vois, on peut me dire un truc comme ça, que quelqu'un qui s'y connaît vachement en mécanique ou en foot, par exemple.
Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on prend tout ce qui est lié à l'artisanat,
ouais.
On sait, par exemple, que l'Allemagne a beaucoup plus encouragé la jeunesse chez eux à se diriger vers des métiers d'artisanat. Mmh. Et c'est pour ça que quand t'achètes une grosse bagnole allemande, généralement, quand c'est vraiment un bon modèle, t'as le nom du mec qui a assemblé le moteur sur le, sur ta voiture. Tu vois, il signe en disant ce moteur a été assemblé par Gerhardt, machin. Alors qu'en France, on avait beaucoup plus mis l'accent sur l'ingénierie.
Ouais.
Les
lycées généraux, lycées pro, par exemple.
Et les lycées pro, c'était souvent vu comme une voie de garage.
C'est toujours le cas.
Voilà.
Mmh, effectivement.
Et en fait, c'est là que tu te dis, bah, c'est quand même lié, parce que à côté de ça, enfin c'est ça qui est assez drôle à constater, c'est que l'excellence française se fait sur des trucs de luxe qui généralement sont craftés par des petites mains dans des ateliers pour LVMH et compagnie. Et paradoxalement, on préfère envoyer nos gosses sur du tertiaire, faire des écoles d'ingé ou des écoles de commerce, plutôt que de leur dire bah, fais de la couture, parce que c'est ça qu'on vend en fait à l'international, c'est l'image du pays qu'on vend. Pareil pour la gastronomie, alors que moi j'ai des gens dans ma famille qui ont fait des études d'hôtellerie, et c'était vraiment une voie de garage.
Ouais.
Et c'est ça qui est drôle en fait, c'est de constater à quel point c'est juste une volonté politique de pouvoir dire bah, on se donne les moyens de nos ambitions, si on veut briller en gastronomie ou autre, il suffit juste de dire aux gosses faites ça, et puis et donc de valoriser ces métiers-là.
T'as vu le nombre de fois où c'est revenu l'école dans les propos de Thomas?
Ouais, bien sûr.
C'est très structurant. C'est lié à ce que tu dis, clairement.
Et si on fait le parallèle avec la pratique musicale, par exemple, bah, tu pourrais dire effectivement que bah, si tu es un gamin qui se met à faire du rap avec tes potes et que tu montes ton projet, bah quelque part t'es en train d'avoir une pratique musicale en amateur autonome, c'est pas reconnu de la même manière que l'enfant qui est au conservatoire et qui fait une formation, quel que soit l'instrument, etc. Potentiellement il utilise sa voix exactement comme comme quelqu'un qui ferait du rap. T'as deux personnes qui font objectivement la même chose au sens d'avoir une pratique musicale en amateur qui potentiellement leur apporte un plaisir très grand,
et ils mobilisent le même outil, leur voix,
exactement, potentiellement les deux produisent quelque chose dont ils sont contents pour le plaisir d'autrui avec un public qui le fait, mais la valeur qu'on accorde potentiellement aux deux est pas la même. Et donc bah d'ailleurs de fait dans un il y a des parcours officiels financés par de l'argent public, donc bah le conservatoire par exemple, et dans l'autre ben bah, pas trop. C'est là maintenant aujourd'hui il y a l'Orchestre National de Jazz et il y a des conservatoires dans lesquels on fait du jazz ou des musiques actuelles par exemple, ce qu'on appelle les musiques actuelles. La manière dont on va faire de la musique, dont on va faire de la musique, là je parle d'un autre de mes collègues qui s'appelle Rémi Slipper, et donc lui il avait travaillé sur les guitaristes rock, et qu'est-ce que ça changeait de passer par des enseignements académiques, quoi. Et ben la manière qu'on va faire de la musique, c'est pas du tout la même, on va se concentrer sur la forme plutôt que sur la fonction, encore une fois, et donc la valeur qu'on va accorder à qu'est-ce que c'est jouer bien ou qu'est-ce que c'est de la musique, ça, et bah, pourtant c'est le même instrument et potentiellement les mêmes formes esthétiques, quoi. Ça va pas être la même chose. Donc c'est pareil, on a des valeurs pas égales entre
les choses qu'on pourrait pas liées à une réalité de marché, parce que en fait je pense qu'il y a plus de fans de rap aujourd'hui en France que de fans de soprano, le rappeur, hein, mais
Il peut même y avoir au contraire un truc de miroir inversé, c'est-à-dire que plus ça existe uniquement dans un marché lucratif qui génère des sous, et moins ça a de valeur symbolique.
Vulgaire.
De fait, donc si tu fais
c'est un jugement de valeur que tu mets.
Non mais justement je me dis le truc qui est trop mainstream où il y a une énorme industrie derrière, etc.
C'est-à-dire on subventionne
parfois c'est un peu vulgaire,
on subventionne
quoi.
À mort des trucs de niche.
De fait l'argent public il sert à protéger du marché des choses qui auraient pas de succès ou qui n'ont pas assez de succès sur le marché pour exister. Donc typiquement effectivement les musiques savantes sans être subventionnées aujourd'hui, si elles devaient exister que sur le marché, ce serait très compliqué.
Et donc il faut les maintenir et c'est bien, tu vois, mais
Est-ce que c'est bien ou pas? Donc ça c'est une autre question, je trouve, effectivement, mais mais ça je pense qu'on peut en discuter. Et donc par contre on peut utiliser la sociologie pour se demander autrement pourquoi c'est bien. Par exemple ça je trouve que c'est un bon usage de la sociologie pour parler de politique culturelle, quoi. Mais donc effectivement ce qui est objectivement vrai, c'est que sans argent public, une partie de l'offre artistique aurait beaucoup plus de mal, ou en tout cas vivrait dans des tout petits espaces réservés uniquement consommés par des gens qui ont les moyens, parce qu'un orchestre ça coûte très cher par exemple, il faut des espaces dans lesquels tu mets ton orchestre. payer beaucoup, beaucoup de musiciens. Donc déjà, ça coûte fatalement très, très cher, où il faut vraiment beaucoup de bénévoles, quoi. Et donc, bah, d'une certaine manière, on voit que plus on met de l'argent pour protéger du marché, et pour dire, en fait, même si ça rapporte pas de thunes, en fait, ça vaut le coup, plus c'est quelque chose qui a une valeur symbolique, légitime, quoi. Et quelque chose qui fait beaucoup de sous, et qui a, bah, quelque part, il perd un peu aussi, c'est un peu comme un miroir inversé, encore une fois, il va perdre un peu sur le truc. Donc, quelque part, si toi, tu fais un truc qui est vraiment pour faire des thunes, et donc, je pense qu'il y a plein de rappeurs qui sont vus un peu négativement dans un truc du genre, en fait, ils sont là pour faire des sous. Donc, ça veut dire que c'est une manière illégitime de faire de la musique.
C'est pas pour l'amour de la musique.
Exactement. Donc, l'amour, c'est la musique pure, en gros, quoi. Mmh. Et bah, du coup, ça te fait perdre des trucs. Donc, effectivement, il y a même pas une rentabilité. Tu vois, si ton gamin, en fait, il veut faire du rap et qu'il se dit, bah, en fait, c'est là-dessus, quand même, clairement, si tu veux gagner des sous, c'est quand même là qu'il faut plutôt faire ça, plutôt que, effectivement,
du, avec,
ouais, de la flûte à bec ou du violon. Parce qu'en fait, à part être premier violon, enfin, pas premier violon, mais violon dans des orchestres où il n'y a pas 20 000 postes, t'as assez peu de chances de t'en sortir, etc.
C'est même monter un groupe de métal, hein.
Voilà, exactement. Mais donc, ça veut pas dire qu'il y a un lien entre ces trucs-là. Comme dans le reste des métiers, finalement, hein, y a pas un lien mécanique entre comment on paye les gens et à quoi ça sert ou est-ce que c'est vraiment rentable, quoi.
Ce qui est terrible avec toutes ces questions, et c'est pas grave en tant que tel, parce qu'en fait, on est tous habités par la société dans laquelle on vit, on est tous aussi habités par des préconçus, etc., véhiculés par notre société, même si on a les meilleures intentions du monde. Et je prends un exemple, c'est que moi, clairement, je vois l'éclectisme comme quelque chose de positif. Et parce qu'en fait, j'ai aussi un capital culturel, indéniablement, qui me permet d'être dans cette démarche-là. Mmh. Et tu vois, et je pense que ça s'exprime très clairement quand un débat qui va te parler, Daz, on le voit parfois, je reprends cette histoire du rap, parce que le rap, historiquement, est en particulier apprécié par les classes populaires, quand même. Il y a une histoire liée, en tout cas, aux classes populaires, indéniablement, même si ça évolue avec le temps, de ce truc qui peut exister même au sein des scènes rap, de dire des mecs, des amateurs de rap, qui se butent qu'à ça. Et on va avoir tendance à leur dire, mais intéresse-toi à la musique de manière générale. Il y a d'autres trucs que le rap. C'est trop bien le rap. Mais et même des beatmakers vont pouvoir dire ça. Moi, je m'intéresse à d'autres trucs. Ouais. Je t'invite à aller, enfin, ça nourrit aussi. Mais quand on s'intéresse, à la fois, je crois à ça. J'ai envie de leur dire, mais intéresse-toi à d'autres trucs. Et en même temps, je dois bien avouer que c'est aussi, j'irais pas dire jusqu'à un mépris, parce que je pense pas que c'est ma démarche, mais c'est ignorer
si,
aussi,
c'est
parfois.
Du mépris. La richesse.
Ignorer aussi qu'il y a des mécanismes à l'œuvre et qui est plus fort que le reste, quoi.
Bah, exactement. Là, tu touches du doigt un truc qui est très important, parce que justement, donc, je parle beaucoup de l'école, mais parce qu'effectivement, elle a vraiment un poids, notamment en France, hein, dans notre rapport à la culture, mais l'école ou des associations comme la mienne, là, Filset, ou plein d'autres associations qui sont pas l'école, mais qui visent juste à intervenir dans la vie culturelle des autres. Effectivement, aujourd'hui, ils se disent, on peut pas dire aux gens, genre, ça, c'est de la grande musique, ça, c'est de la petite musique, genre, ça, moi, je suis le garant d'un bon goût, etc. Parce qu'en fait, on a vraiment l'air de snob et de pauvre type si on fait ça. Donc, on n'assume plus du tout cette violence symbolique-là. Et donc, effectivement, les dispositifs d'éducation artistique et culturelle, les dispositifs qui utilisent l'argent public pour intervenir dans la vie des gens, et souvent, ces gens, c'est des jeunes, ça vise à leur dire exactement ce que tu disais, mais intéresse-toi à d'autres trucs. Donc, tu vois, même le Pass Culture, on dit, en fait, c'est pour la diversité, etc. En fait, c'est pas vraiment pour ça, mais c'est pas grave. Et donc, on dit, intéresse-toi à d'autres trucs, ouvre-toi. Et donc, en fait, effectivement, d'un point de vue de la sociologie qui regarde cette histoire de stratification sociale et de des rapports entre domination sociale et goûts musicaux, en fait, ouais, ça revient à dire le modèle, enfin, les classes supérieures, leur manière de vivre, c'est la bonne, et donc tu devrais faire ça. Tu seras un meilleur individu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est une autre question. On peut très bien assumer de se dire, après tout, on peut vouloir faire ça, même si objectivement, il n'y a rien qui peut nous appuyer sur le fait que c'est objectivement mieux qu'un autre truc. On peut très bien assumer de le faire. Ce que la sociologie nous aide à comprendre, c'est que, en faisant ça, on fait quelque part la même chose que ce qu'on faisait dans les années 60 quand on disait la grande musique. On diffuse, on essaye de diffuser à tout le monde et notamment aux classes populaires les comportements qui vont caractériser plutôt les classes supérieures et notamment les classes supérieures qui ont le plus de capital culturel. Et ça, ben ouais, nous, enfin là vraiment, moi je fais partie d'une génération de chercheurs qui étudions un peu ça dans les institutions culturelles et on le voit vraiment très très bien. La thèse, enfin le travail de Florence Éloi, c'est vraiment genre limpide ce déplacement, mais en fait qui change pas le fait que ce qu'on essaye de transmettre, et notamment aux enfants de classe populaire, c'est le rapport à la culture qui caractérise plutôt les plus cultivés dans la société à ce moment-là.
Eh ben, passons à cette dernière, parce que là, on commence à rentrer dans le cœur de cette troisième partie, qui est la question de l'action derrière, de l'action même éventuellement politique, etc., et des pratiques culturelles comme un levier social pour influencer sur les liens qui, au sein d'une communauté, des gens, etc. Et là, ce que tu me racontes tout de suite, reprenons un peu ce que je disais, c'est que moi, j'avoue que j'ai toujours imaginé la musique
comme à travers son étude, en tout cas porter un intérêt à la musique, à son histoire, etc., comme un truc qui ouvre l'esprit et qui en fait nous enseigne par... Je prends un exemple bête, la question du racisme. Mmh. D'associer des genres musicaux à une race, socialement bien sûr, mmh. la question de la race. Dire bah ça c'est pour les noirs, ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les gens issus de l'immigration, machin, etc. Moi ça m'a toujours insupporté ça comme truc par exemple. Et je me suis toujours dit, bah quand on s'intéresse à l'histoire de la musique, on prend l'histoire du rock, qui ouais, à des moments a été exactement. Associé à un truc de blanc. L'histoire de la musique, si on s'y intéresse, nous rappelle que non, ouais. ça n'a pas été comme ça.
Ouais.
Et donc,
comme la techno, comme
ouais, exact. Et en fait, c'est pour ça que je me suis toujours dit aussi, bah, l'éclectisme et l'intérêt, etc., et l'éducation entre guillemets, peut amener quand même à des discours que je considère comme positifs
ouais.
et que j'ai envie de véhiculer.
Bah, on peut tout à fait défendre cette idée-là. Et en fait, ce qu'on appelle l'éclectisme, ça peut prendre plein de formes différentes. La forme qu'il y a aujourd'hui, que moi je disais tout à l'heure, qui serait l'éclectisme éclairé, ça vise à dire en réalité, le but c'est pas de manger de tout et n'importe comment sans regarder ce qu'on mange, c'est de savoir distinguer, de savoir trier le bon grain de livret dans tous les domaines, quoi. Et donc ça, c'est une manière de faire. Mais on pourrait très bien dire, après tout, on part du principe qu'il n'y a rien de bon et rien de mauvais, donc trier le bon grain de livret n'a aucun sens, et donc le but c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des gens kiffent des trucs, même quand ça n'a aucun sens pour moi. Et donc ça impliquerait que, par exemple, prenez la taupe, des gens kiffent René la taupe, et donc moi je me dis, en fait, si j'ai pas compris l'intérêt de kiffer René la taupe, alors j'ai un chemin qui s'ouvre à moi, qui est qu'est-ce qui fait que des gens vivent une expérience intense et positive avec cette musique-là. Et ça pourrait être une autre manière de penser ce que toi t'appelles l'éclectisme ici là et qui serait en fait un autre type de politique culturelle que celui qu'on mène au nom de la diversité ou de l'éclectisme aujourd'hui, qui serait plus proche de grandes catégories de politique culturelle qu'on appellerait la démocratie culturelle ou les droits culturels, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas avec l'idée que on part du principe que non seulement il n'y a pas de grande musique ou de petite musique en termes de genre, mais il n'y a pas de bon rapport à la culture, enfin il n'y a pas de bon rapport à la musique et de mauvais rapport à la musique, donc c'est-à-dire il n'y a pas l'idée que si c'est juste pour faire la fête et si c'est juste pour s'ambiancer, c'est moins bien que quand on l'écoute, c'est beau, par exemple. En fait, ce qui est un peu le principe encore aujourd'hui, en fait, c'est ça, on défend un modèle plutôt, un rapport esthétique plutôt que fonctionnel, on dirait en sociologie. Mais du coup, ça pourrait être un autre truc où effectivement, on pourrait associer à cette idée-là que ça nous oblige à nous ouvrir à l'expérience d'autrui. C'est vraiment genre, bah là, du coup, on s'acculture à l'expérience de quelqu'un d'autre. Comme le goût musical, cette espèce de truc incroyable où c'est dans nos corps, ça vibre dans nous et c'est vraiment un truc qui est pas que un marqueur social, qui est vraiment une expérience singulière, qui est une expérience intense qui fait que on est ému et qu'on se dit la vie, ça vaut la peine d'être vécu. En fait, c'est quand même un peu ça ce qui se passe, quoi. Eh ben, on pourrait vraiment essayer de se dire comment je peux essayer de comprendre l'autre. Dans cette espèce de vibration qu'il a et qui me semble parfaitement impossible pour moi parce que ça a l'air d'être de la merde ce que lui il écoute par exemple. Et donc bah du coup il y aurait ce truc là de ce, en fait tout le monde, comme tout le monde a des dégoûts et comme tout le monde trouve que tu vois, si tu prends les classes populaires qui vont dire mais la musique classique c'est trop ennuyeux, c'est vraiment chiant, tu vois, c'est vraiment trop lent, bah il y aurait vraiment un enjeu à dire qu'est-ce qu'il y a de merveilleux quand même, enfin c'est quoi l'expérience intense qui va avec la musique classique, mais autant que évidemment des gens qui disent bah Jules c'est vraiment de la merde, même s'il y en a moins aujourd'hui qu'hier, et de dire pourquoi c'est quand même merveilleux et pourquoi même René la taupe c'est quand même, ou Weshden, ou pourquoi c'est quand même merveilleux, quoi.
Et j'ai même envie de dire, bon là, je mène un peu les débats, mais
vas-y, mais
c'est des trucs qui me questionnent depuis très longtemps en fait, qui m'intéressent beaucoup. Il y a aussi l'échelle individuelle, c'est-à-dire que moi je n'ai pas de pouvoir pour influer directement sur le réel et sur ce qui va se passer pour les gens en France, etc., globalement. Et puis après, il y a les pouvoirs publics. Et donc, on n'a pas la même responsabilité et on n'a pas aussi la même manière d'assumer, entre guillemets, notre vision. Ce que je veux dire par là, c'est que, en anthropologie, moi aussi, c'est une question, un truc qui me posait beaucoup de questions, c'est la question du relativisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout relativiser? Est-ce que tout se vaut sans cesse, machin, etc.? Est-ce qu'on peut tout mettre à pied d'égalité, etc.? Moi, ce que j'en retirais quand même, c'est que, en tant qu'êtres sociaux et forgés par notre environnement, on ne peut pas complètement s'en échapper.
Mmh.
L'ethnocentrisme, l'anthropologie, on parle de ça, c'est juger avec ta propre culture et la culture des autres. C'est un leurre que de dire « je m'en détache ». Ça n'existe pas, t'as été construit par ça et ça sera toujours là. Mmh. C'est plutôt en avoir conscience qui va te permettre quand même d'aborder l'autre en essayant de faire l'effort d'ouverture pour comprendre ce qui se passe chez lui. Mais tu restes ce qui t'a construit en grosse partie.
Et c'est pas grave.
Et exactement. Voilà. Et c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'en arrive, j'extrapole un peu autour de la musique, etc. Et dire à un moment, je considère que ça, c'est un artiste meilleur ou plus intéressant qu'un autre, je pense qu'à l'échelle individuelle, c'est pas grave.
Exactement.
De dire ça, franchement.
On peut parfaitement assumer que, bah oui, nous, on voit qu'il y a des trucs, on se dit, c'est clairement mieux. Pourquoi? Parce que déjà, notre corps vibre vraiment avec une intensité plus ou moins forte, ouais. Et qu'on comprend l'intérêt d'un truc, et d'autres choses nous paraissent vides, ou voire agressives, voire vraiment pénibles, quoi. Mmh. Dire ça, ça veut pas dire que, pour d'autres personnes, ça va être différemment. Et c'est pas, ça se répartit pas, comme on l'a dit depuis le début, de manière complètement aléatoire, parce qu'ils sont les, c'est le produit de leur expérience spécifique qui produit chez eux la logique que c'est comme ça que, c'est comme ça que ça marche. D'un point de vue, si on était juste une société d'individus complètement isolés, on pourrait juste se dire, bah, chacun ses bails.
Exactement.
Mais là, si on essaye de faire société, on peut avoir des notions de politique culturelle dans lesquelles on dit comment on traite à ce moment-là ces différentes réalités.
Et là, c'est plus compliqué.
Est-ce qu'on fait comme on fait actuellement de dire, bah, il y a des gens qui ont raison et des gens qui ont tort? Il y a des gens qui ont les bons goûts et des gens qui ont plutôt les mauvais goûts. Il y a des gens qui ont des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Il y a des gens qui ont les bons rapports à la culture, c'est-à-dire les bonnes manières d'évaluer, les bonnes manières de catégoriser, les bonnes manières de consommer la culture, et d'autres gens qui ont les moins bonnes. Ou est-ce qu'on fait autrement? Là, le sociologue, il n'a pas de réponse à ça, parce que là, c'est pas un problème de sociologie, c'est un problème de politique. C'est-à-dire comment on s'organise entre nous pour essayer de déterminer qu'est-ce qui a de la valeur, de qui a de la valeur, de comment on vit ensemble, de comment on partage les choses, etc. Et donc, bah, ça, quelque part, ça, c'est comme tu le dis depuis tout à l'heure, en fait, on va le voir dans, bah, les politiques qui sont menées, aussi bien à l'école que dans plein d'autres trucs. Et puis, on va le voir dans comment qu'est-ce que nous, on revendique, comment on vit, qu'est-ce qui nous semble valoir la peine d'être défendu, collectivement, avec de l'argent, quoi. Et je pense qu'il y a plein de choses, il y a des moments où on voit bien qu'on veut défendre ce truc, où après tout, quelque part, tout se vaut. Si on y pense, quelque part, un truc comme la fête de la musique, c'est un moment où la distinction entre artiste professionnel et artiste amateur, voire même entre bon et mauvais, elle est moins importante que...
Elle se floute un peu, mais bon, elle reste voilà. Là, mais elle se floute un peu.
Mais l'idée, c'est, l'important, c'est de jouer de la musique. Mmh. Et donc, l'important, c'est qui que tu sois, tu peux c'est prendre l'espace public. Aujourd'hui, c'est une journée sur 365, tu peux prendre l'espace public, faire ce que tu veux.
Même si dans les faits, on sait que c'est compliqué avec son groupe amateur, en réalité, d'avoir un spot, machin,
exactement.
Etc.
Sur le papier, en tout cas, ouais. C'est l'idée, quoi. Okay. Et ce qui est évidemment très distinct d'un endroit comme, par exemple, à Filset, où on va dire cet espace-là scénique, des gens vont choisir qui a le droit de monter sur scène ou pas. On pourrait très bien imaginer un monde dans lequel on tire au hasard.
Et vous êtes une salle de spectacle, c'est vous qui décidez.
Voilà. Mais en fait, on pourrait très bien décider. Et en partie, là, on le fait maintenant, tu vois, par exemple, chez nous, avec un comité de programmation dans lequel les adhérents de la structure, qui sont pas des programmateurs professionnels, peuvent participer à choisir. Donc là, quelque part, eh ben, si t'as des adhérents qui sont très divers, ce qui est aussi difficile, bah, tu pourrais avoir un peu ce truc-là où des gens qui ont vraiment des avis très différents sur qu'est-ce que c'est la bonne musique doivent se mettre d'accord sur comment on choisit une musique bien pour la mettre. Et ça, c'est incroyable, vraiment, tu te dis...
Vous créez des problèmes, hein, c'est super intéressant.
Mais à une toute petite échelle, tu fais société, puis tu peux pas juste te détacher de l'idée que bah si personne vient dans ta salle, c'est quand même un peu relou, donc faut penser à ça. Et puis les artistes, c'est dans un monde dans lequel, un peu une structure d'économie capitaliste, dans lequel les artistes ils coûtent plus ou moins cher, donc on peut pas juste décider qu'on paye que des gens qui valent très très cher parce que tout le monde les aime bien. Donc il faut le faire à l'intérieur de ce truc-là. Mais c'est déjà... une petite manière d'expérimenter, une autre manière d'utiliser de l'argent public, puisque nous on est assez largement subventionnés, pour intervenir dans la vie culturelle des gens. C'est déjà en fait un truc où on peut le penser différemment.
Parle-nous un peu de ce que vous faites à Filset. Enfin, quelle est votre, justement sur ces questions hein, dont on parlait, votre philosophie, comment vous approchez ça? Comment toi, avec ta vision déconstruite, entre guillemets, parce que tu vois les mécanismes à l'œuvre et donc tu essayes de réfléchir sur la pratique que vous avez avec cette salle de spectacle, etc. J'imagine que tu l'abordes avec les autres, etc.
Oui.
Comment vous arrivez à concilier tout ça?
Bah, moi, ça a été un peu une de mes motivations après des années donc à observer les pratiques culturelles des individus. J'ai eu l'opportunité, je sais pas vraiment moi qui ai impulsé le mouvement, mais d'intégrer donc le comité d'administration d'une asso comme ça. Et c'est très bizarre au début parce que quand t'es sociologue, tu regardes un peu le monde et tu dis vous en parlant aux acteurs, c'est-à-dire aux gens qui agissent dans le monde, parce que toi tu les observes et eux ils font des trucs quoi. Et là je me disais ah mince, moi je vais passer de l'autre côté, donc maintenant moi je vais devoir avoir les mains sales au sens de je peux pas juste observer de loin et maintenant il faut que je mette les mains dans le cambouis un peu quoi. Et il y a un truc où moi je peux pas arriver et dire écoutez-moi je suis le sociologue, même si en réalité je pense que je le fais un peu de temps en temps, je suis désolé pour le reste de l'asso, mais tu peux pas arriver en disant écoutez-moi parce que tu fais une asso avec d'autres gens qui ont d'autres idées, donc il faut qu'on essaye de bricoler un truc ensemble. Il y a eu un moment où on a essayé de se mettre d'accord avec le comité d'administration, donc les gens qui chapotent ce que c'est la stratégie de Filset, pour dire bah c'est quoi Filset, à quoi ça doit servir. Et donc il y avait des gens qui pouvaient dire bah nous on est là pour défendre la musique de qualité, et moi je disais juste bah ok, comment on définit la qualité, parce que sinon en fait, si on n'est pas d'accord sur ce que c'est la qualité, ça veut dire qu'on pourra pas mettre en œuvre cet objectif. Et on voyait bien qu'on pouvait pas arriver à définir ce que c'était avec la qualité, parce que si toi tu me dis bah c'est ça la qualité, et que moi je te dis bah non, moi je suis pas d'accord, en fait personne n'a raison. Mmh. Et c'est impossible à résoudre. Donc moi, dans ces moments-là, je militais pour dire bah donc on peut pas mettre qualité dans nos objectifs. Donc en fait, on peut pas être là pour défendre la musique de qualité parce qu'on peut pas définir ce que c'est qualité. Soit on se met d'accord sur une définition. Voilà, et moi je veux bien.
Il faut avoir des critères. Pour
voilà. Mais donc ensemble. Du coup, on arbitrairement.
Le nombre de notes.
Voilà. arbitrairement, on décide ce que c'est la qualité. Mais si on n'est pas capable de le faire.
Le type d'instrument.
Voilà, ça peut être genre la qualité du texte dans je sais pas ou ouais, la richesse syntaxique.
Mais il faut le définir.
Une invention esthétique. Tu vois, il y a effectivement des salles qui vont dire bah oui, il faut qu'il y ait une invention du langage esthétique. musique pour qu'on estime que ce soit bien. Il faut le définir.
La structure soit autre chose que couplet, refrain, couplet,
voilà,
refrain.
Par exemple, voilà. Donc, mais si on n'est pas capable de se mettre d'accord, moi je disais, ben, on peut pas choisir ça parce que du coup, sinon, c'est un peu étrange. Et moi, je militais, et donc, d'une certaine manière, on a réussi à se mettre d'accord là-dessus, sur l'idée que si on se concentre sur l'expérience des individus et des artistes qui viennent chez nous, et que nous, notre but, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de participer à générer des expériences qui soient positives, qui soient intenses, qui soient originales, c'est-à-dire qui soient nouvelles pour les individus et qui pourraient pas vivre sans nous, c'est-à-dire que l'argent public il sert à générer un truc qui n'aurait pas pu exister sans l'argent public. Alors à ce moment-là, on peut faire plein de trucs parce que ça veut dire que mettons que toi tu vas voir un concert d'un groupe vraiment pas connu de noise drone machin truc, vraiment tu as un truc de niche. Et ben en fait tu peux avoir un moment où du coup grâce à nous on fait jouer des artistes que personne ferait jouer parce que par exemple ils ont trop peu de personnes, mais on se débrouille pour faire venir des gens un peu plus nombreux, tu vois, de créer un autre truc, et tu peux te prendre une grosse claque en disant putain c'est incroyable ce truc musical que je connaissais pas du tout. Donc là ça y est, t'as une expérience intense potentiellement mémorable, tu vas te souvenir toute sa vie de ce concert où t'avais des gens trop fous qui sont arrivés, ils ont fait des trucs, je savais même pas que ça existait. Donc tu vois, t'as cette expérience incroyable et t'aurais pas pu la vivre sans nous parce qu'en fait ce groupe de drones, ça nous fait perdre de l'argent en fait de le programmer parce qu'en fait c'est un trop grand risque. Mais c'est aussi potentiellement plein d'autres choses. Ça veut dire par exemple, moi j'aime pas trop danser. J'aimerais bien kiffer danser, mais j'ai jamais vraiment intériorisé ce truc de waouh la musique, tu vois, quand il y a une musique qui se lance, ah ça me donne trop envie de, etc. Donc moi j'ai toujours écouté la musique vraiment comme un garçon et comme un peu un neuneu musicien, quoi. Et je me suis dit bah voilà, comment s'y prendrait une salle pour me donner le goût de la danse par exemple, comment il ferait pour me faire découvrir l'intensité de l'expérience que visiblement d'autres gens vivent. Et donc bah on peut avoir aussi des moments comme ça où on essaye de penser, nous par exemple on a une soirée où on utilise l'écran géant de la salle pour diffuser des musiques, des vidéos qui viennent de Just Dance, est un groupe qui joue live les musiques par-dessus. Et moi je me suis dit, bah ouais en fait si moi j'ai déjà une chorégraphie et que je peux vraiment danser avec d'autres gens, en fait ça me fait triper, j'oserais vachement plus. Et ouais bah du coup voilà, c'est une manière de vivre. Bah est-ce que vraiment tu peux faire ça dans ton salon? Non, c'est-à-dire il faut vraiment t'as vraiment un groupe live dans une salle de concert et tu peux vivre une expérience qui est en plus une expérience qui est plutôt celle des classes populaires. C'est-à-dire si tu regardes qui kiffe la musique en dansant ou qui kiffe la musique sans rien faire d'autre, bah en fait tu vas voir qu'il y a une différence de classe sociale. Donc les classes populaires vont être plus nombreuses à dire que oui, danser c'est une bonne manière d'apprécier la musique. Et puis c'est aussi, il y a aussi une inégalité de genre, c'est-à-dire c'est plutôt aussi une pratique féminine. Et en fait, si tu te dis, bah en fait, nous, dans notre salle, on n'arrête pas de défendre des rapports à la musique, des genres, etc., qui sont plutôt ceux des classes supérieures, bah moi, je me disais, il faut qu'on ait des manières de lutter contre ça en essayant de défendre aussi des genres esthétiques, mais pas seulement, des rapports à la musique, c'est-à-dire des manières de kiffer, par exemple, qui sont ceux qui caractérisent un peu ceux des classes populaires. Et ça se fait pas facilement parce que les gens qui viennent dans l'asso et qui bossent dans ce genre de salle, bah ils sont socialisés potentiellement comme toi et comme moi, donc ils ont une idée de ce que c'est la bonne musique et ça peut les heurter, c'est très logique de dire attends mais là on est en train de défendre des trucs. Bah c'est un peu comme si tu défendais René Latope, au bout d'un moment t'es là genre est-ce que c'est vraiment ça? Il y a des gens qui quand ils viennent travailler dans ces salles-là, ils se disent bah moi ce qui me faisait rêver dans ma carrière professionnelle, c'était de défendre la bonne musique, quoi. Et donc bah évidemment c'est un peu différent et là il faut se mettre au service d'un projet qui est plus celui de défendre la qualité, qui est vraiment qui serait le projet de démocratisation de la culture. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? C'est pas mon problème en tant que sociologue. Là vraiment c'est vraiment là je parle avec la casquette de comment moi je veux intervenir dans la vie musicale des gens.
Bon, c'est hyper intéressant et ça là la suite logique de nos discussions c'est à l'échelle locale vous ce que vous pouvez faire on le comprend. Ensuite, quand on passe à une dimension encore supérieure, nationale, où directement c'est l'État qui est impliqué, alors là, à travers la subvention, vous aussi, il y a un lien avec l'État. Mais où d'ailleurs, je sais pas, c'est des subventions principalement, c'est des locales.
Alors, il y a plein de gens. La subvention principale, c'est collectivité territoriale, c'est l'agglomération du Val d'Europe. Et puis ensuite, il y a le département, enfin, pas dans l'ordre croissant, hein, mais le département, la région et l'État à travers la DRAC qui nous donnent des sous. Okay. Voilà,
donc le ministère de la culture
Voilà, donc c'est ça, ouais.
Mais en tout cas voilà, bah si on prend chacune de ces institutions, enfin chacune de ces strates,
exactement,
chacune de voilà, ils ont une responsabilité. Phil Seth, ils ont la chance de t'avoir et d'autres personnes certainement aussi, où vous amenez cette réflexion qui tranche un peu peut-être avec le reste de autour de la programmation, etc., de la plupart des salles, j'imagine en tout cas. Est-ce qu'il y a à ta connaissance des pratiques politiques menées vraiment par les collectivités, par l'État, etc., qui vont dans ce sens-là, ou est-ce que globalement c'est pas trop l'esprit?
Ben alors déjà on est quand même pas tout à fait la seule salle. Enfin il y a d'autres salles qui sont un peu dans nos modèles, c'est-à-dire des salles subventionnées, etc. Donc qui doivent essayer d'avoir des c'est pas que de la musique, c'est-à-dire c'est de l'intérêt général. C'est-à-dire la musique, à quoi elle sert dans l'intérêt général? Donc, il se pose quand même ces questions-là. Donc, l'idée, par exemple, d'un comité de programmation, c'est un truc qu'on verrait dans d'autres salles, etc. Et après, bah ouais, en fait, quand t'es financé par de l'argent public, autant, mettons que tu fasses des trucs de marché, toi, t'es dépendant de est-ce que c'est populaire. Donc, bah, s'il y a pas assez de gens qui viennent dans ta salle, tu mets la clé sous la porte. Et malheureusement, tant pis. Et là, quand t'es dépendant de financement public, c'est plutôt est-ce que t'es d'accord avec les gens qui te donnent des sous pour que l'effet que tu crées sur le monde, grâce à ces sous, bah, il nous semble,
oui, ok. Après, celui qui fournit aussi des moyens, la collectivité, il peut avoir un regard aussi sur ce que vous allez faire.
Exactement, ouais.
Et
ouais.
Ça va pas forcément dans le sens de ce
exactement.
Que là vous voulez aller.
Voilà. Donc, c'est tout à fait possible que, bah, les gens qui nous donnent des sous, ils nous disent, mais nous, on voulait que vous, je sais pas, que vous mettiez des artistes tête d'affiche pour que, tu vois, des artistes vraiment connus, pour que, bah,
faire rayonner notre territoire.
Voilà, la salle, elle soit remplie tous les soirs, par exemple, où ils pourraient dire, mais non, nous, ce que vous devez faire, c'est la musique de qualité. Donc, aller chercher des artistes qui, dans le rap, dans le métal, dans la pop, etc., inventent un langage musical et vous devez les défendre. Donc, vraiment, tu vois, la qualité musicale, esthétique, etc. Donc, ils pourraient ne pas être d'accord avec nous. Bah oui, ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut avoir des moments où tu dialogues avec les gens qui te subventionnent pour essayer de montrer que tu te mets d'accord sur des objectifs pour essayer de dire voilà comment ça marche. Mais c'est jamais facile, ça. Et donc, bah, de toute façon, tous les modèles économiques de politique, enfin, de gens comme nous, tu choisis tes dépendances. Toi, t'es dépendant au marché et il faut faire des trucs qui marchent assez pour que tu mettes pas la clé sous la porte. Soit t'es dépendant du financement et il faut que tu te battes pas avec les élus. Soit tu veux rien faire de tout ça, mais tu vas être très modeste. T'es un squat et tu peux faire ce que tu veux, mais dans des toutes petites mesures, quoi. Donc, il y a jamais un modèle qui serait genre parfait sur tout, quoi. Ça existerait pas.
Il y a une logique quand même de rentabilité, c'est-à-dire que la salle, on l'a, il faut quand même la remplir un minimum, quoi.
Tout le monde serait pas d'accord. Donc il y a des politiques il y a des élus qui pourraient vous tenir ça, et puis d'autres élus qui pourraient dire, moi, c'est pas grave si vous perdez de l'argent. Ce que je veux, c'est que vous défendiez la qualité, par exemple. Donc la DRAC, typiquement, ils vont plutôt, enfin, donc le ministère de la Culture, ils vont plutôt avoir cette position de dire, le but, c'est pas de gagner de l'argent, le but, c'est la défense de la bonne culture quelque part. Ils vont pas vraiment dire ça comme ça, mais quelque part, ils pourraient dire ça. Et eux, ils nous donnent des sous. Et si nous, on est là, genre, la bonne culture, on en a plus rien à faire, ils vont peut-être nous dire, les gars.
C'est pas pour ça qu'on a signé.
Ouais, exactement, quoi. Voilà.
Et avec ton regard, est-ce que... Alors, je sais pas si on peut parler de manière générale de politique culturelle en France. En tout cas, on peut voir l'état d'esprit, par exemple, du ministère de la Culture, très clairement. Ça va plutôt dans quel sens? Ça va justement dans un sens de chercher, abolir, c'est trop grand comme mot, mais chercher à réduire un peu, justement, ces idées de domination, de, etc., ou c'est pas trop dans cet esprit-là?
Eh ben.
On reproduit globalement.
Ouais, ben, donc, si tu vois, si on essaie de recoller, parce qu'on s'est un peu éloigné de cette histoire de goût, etc., mais si on essaie de voir, après tout, quel type de goût veut faire émerger, le ministère de la Culture quand il fait des trucs, quand il met de l'argent, quand il subventionne des gens plutôt que d'autres, quand il pousse des dispositifs, etc., ben, on va retrouver ce truc de domination au sens où bah, si on regarde qui a beaucoup d'argent, ça va être par exemple l'opéra va avoir beaucoup d'argent en termes de musique, si on regarde que la musique, hein, effectivement la philharmonie par exemple, des espaces comme ça, des conservatoires, etc., vont avoir beaucoup d'argent.
Ça, c'est pas cliché, vraiment, il y a plus de financement qui vont à ce type de,
si on compare par exemple des scènes de musiques actuelles, donc qui font des musiques populaires en réalité, ou des musiques amplifiées populaires, on les appelle là comme on veut, mais et qu'on compare avec l'opéra et qu'on regarde juste en termes de d'argent, bah ouais, il y a pas match quelque part. C'est clair et net que on met plus d'argent dans des formes culturelles qu'on voit comme mieux, y compris juste dans la musique. Donc déjà, on voit qu'il y a ça. Vas-y. Ouais.
Est-ce que ça, c'est lié à l'appétence d'un groupe de personnes qui décident de ça, ou parce que quand on avait reçu les profs de musique, eux, ils nous avaient dit, par exemple, que le passage de Blanquer à l'éducation, c'était super, parce que Blanquer, il adorait la chorale. Et que du coup, bah, en tant que prof de musique, c'était génial.
Ouais.
Parce qu'ils avaient plus de moyens. Donc tu te dis, en fait, ça dépend parfois de une personne, vraiment un poste clé qui peut en fait
mais
influer.
La règle générale, quand même, c'est que même si c'est un individu, il va défendre souvent les intérêts de sa classe. C'est quand même aussi ce qui arrive régulièrement, quand même.
Et de fait, s'il les a intériorisés, il a pas...
Et s'il a atteint, pardon, ce poste, c'est probablement qu'il vient de telle classe. C'est quand même rare qu'il y ait vraiment, tu vois, et donc il défend plutôt les intérêts. Et donc, en fait, tu vois une certaine continuité en général, quoi. Enfin, j'imagine.
Si, non, mais en plus, bah, de fait, donc les gens qui accèdent à des positions de pouvoir, ils sont issus de classes supérieures et eux-mêmes, par exemple, ils ont fait beaucoup d'études, etc. Et c'est pas tellement qu'ils se disent, hi, dans une sorte de stratégie, on va appliquer une politique qui va favoriser notre classe. Ils peuvent se dire ça et être extrêmement cyniques, il y en a sans doute. Mais ils ont vraiment intériorisé le truc que, bah, cette culture-là, elle est vraiment mieux que l'autre. Mmh. Et donc, ça serait tellement merveilleux que tout le monde découvre ce goût pour cette chose merveilleuse. Et donc, que tous les enfants lisent des livres et que tous les enfants aient un goût pour le théâtre, la musique classique, plutôt que pour le death metal et le gangsta rap, par exemple.
Même si à la marge, ça peut se jouer, tu parles de le choral, etc. Ouais. Mais je pense que l'esprit global, par contre, je pense pas qu'il y ait des bouleversements entre des ministres, quoi.
Exactement. Donc, il peut y avoir quelques personnes qui vont faire des choses, mais on va avoir quand même, mais par exemple, tu vois, au moment où Jacques Lang arrive au début des années 80, il arrive avec ce truc de dire la démocratisation de la culture, c'est-à-dire, en gros, pour la résumer, c'est la bonne culture qu'on essaye de diffuser à tout le monde, ce qui implique qu'il y a une bonne culture et une culture moins bien. Lui, il arrive en disant tout ça, c'est fini, j'exagère beaucoup, beaucoup, mais voilà. Et donc, par exemple, bah, la fête de la musique, tout ça, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Mais ça se fait, c'est pas comme s'il switchait d'un paradigme à un autre, ça se fait en plus du reste. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs objectifs un peu contradictoires qui peuvent s'empiler les uns aux autres. Et donc, bah, aujourd'hui, on a toujours des politiques qui, quand même, très essentiellement sont tournées sur ce qu'on appelle la démocratisation de la culture, ce qui suppose qu'il y a une bonne culture et une mauvaise. Et quand on regarde qui aime cette bonne culture, c'est plutôt les classes supérieures. Et qui met en place ces politiques culturelles, c'est plutôt les classes supérieures. Et qui, dans les structures culturelles, vraiment, dans les petites chevilles ouvrières, met en place ces trucs-là, c'est plutôt des gens qui ont grandi dans des familles cultivées aussi. Donc, en fait, eh ben, ça ressemble effectivement à une classe sociale qui diffuse son rapport à la culture aux autres classes sociales. Ce serait toujours le cas aujourd'hui. Ça prend des formes différentes. Donc, avec la défense de la diversité plutôt que la bonne culture. Et en fait, derrière la diversité, c'est plutôt la diversité pour des genres et des rapports à la culture spécifiques. Et puis, il y a quelques bouts de trucs de politique culturelle, un peu comme un peu comme la fête de la musique, où là, on dit, non, mais en fait, tout le monde des égaux, etc. Donc là, les droits culturels, c'est vraiment un truc, on a mis ça dans la loi, on doit faire respecter un peu comme ça part des droits de l'homme, et donc chaque personne peut arriver à faire respecter ses droits culturels. On est censé pouvoir garantir que chaque personne peut respecter ses droits culturels. Mais ça peut pas, en fait, cet objectif-là, si on le réussit, ça implique qu'on ne peut pas réussir celui de la démocratisation de la culture, parce que ça veut dire que les droits culturels, ça va avec l'idée qu'il n'y a pas de bonne culture ou de mauvaise culture. Donc ces deux objectifs qui sont contradictoires. On peut pas juste les mettre les deux dans une même politique et faire hop, débrouillez-vous.
En fait. Et pourtant, c'est ce qui se passe.
C'est complètement ce qui se passe. Voilà. Exactement. Et donc ça dépend pas forcément d'une personne. Ça dépend de combats politiques, ça dépend de choses après qui restent dans la loi, dépend aussi du fait que, en fait, moins on utilise les sens sociaux pour essayer de se poser ces questions-là et de déconstruire, ben, plus on a l'impression que les choses peuvent aller ensemble, alors que non. Etc.
Mais ce constat que toi tu fais, j'imagine que t'es pas le seul à le faire dans le milieu culturel et qu'à un moment donné ça doit bien remonter quelque part pour que...
Après, remonter quelque part, donc les élus, on voit qu'ils ont une durée de vie potentiellement singulière, et puis eux, ils peuvent avoir des enjeux politiques, et donc il y a des enjeux politiques qui font que il y a des actions qui sont beaucoup plus vite rentables si tu rends un truc gratuit, par exemple le pass culture, si tu dis on va mettre tant de millions pour donner tant de sous à des gens, c'est un truc que tu peux faire tout de suite et qui se voit tout de suite. Si tu dis on va faire respecter les droits culturels, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de mettre en œuvre une politique qui se voit. Donc si toi t'as 2 ans de en tant que ministre par exemple, ou même en tant que
bilan, faut le marketer un peu, le vendre derrière.
Court terme pour que ça soit
et donc il y a toute une série d'objectifs politiques qui sont quand même si on te les fait remonter, en réalité je sais pas vraiment, tu vois là c'est pas du tout ma spécialité, comment ça remonte. Il faudrait faire plutôt une sociologie des institutions culturelles, genre comment les techniciens, donc les gens qui sont pas élus mais qui sont censés mettre en œuvre les politiques culturelles, faut remonter les trucs. Est-ce que les messages arrivent vraiment? Est-ce que les gens écoutent vraiment? J'en sais rien. Et puis de toute façon, après, en fait, les gens qui ont vraiment une capacité de décider les politiques, ils peuvent avoir des intérêts qui sont très distincts de vraiment créer un effet sur le monde culturel, quoi. Donc, je pense que ça peut être vraiment très très distendu la politique culturelle de ces enjeux-là, quoi.
Écoute Thomas, là, je pense qu'on a vu à l'image, il y a Flav qui vient de passer parce
que l'alarme.
Il y a l'alarme qui s'enclenche. Je crois que ça marque le fait que on arrive au bout de cette émission quand même.
Oui,
c'était hyper riche, hyper dense, mais hyper intéressant.
Tant mieux. J'espère que c'était pas trop relou les sciences sociales. C'est moins bien qu'un artiste qui vient raconter sa carrière quand même.
Bah, c'est différent. Enfin,
moi j'aime bien l'alternance aussi.
Ouais, c'est bien. Hein.
Ouais,
un peu des deux et tout.
Ouais,
après Wally Badarou, on fait Thomas Logon.
Ouais, franchement, moi j'aime bien. Justement, ça interroge plein de trucs qu'on aime bien de temps en temps quand même repiquer ici, notamment justement le déterminisme social et le capital culturel, etc., etc. Bourdieu.
Ah là, on est vraiment rentré dans le truc frontal. Mais il fallait bien qu'on le fasse un jour.
C'est cool.
C'est bien. On l'a fait au moins une fois.
Ah, exactement.
Ça reviendra en filigrane.
Bien sûr, bah c'était déjà là, hein, mais bon.
Ah oui. Alors on a dans le casque Flav qui s'occupe de la technique donc ce soir, qui nous dit si je peux me permettre, la seule musique qu'on a mis ce soir c'est René Latope. Il a raison.
C'est vrai.
C'est un peu honteux. Bon, oui je fais.
C'est
du mépris ce que je dis, mais c'est un peu honteux quand même. Alors je vous propose qu'on rattrape ça avec les recommandations.
Oui.
Donc tu le sais Thomas, on termine avec une recommandation, un morceau de musique que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs, nos spectateurs, celui que tu veux. On peut commencer si t'as envie encore de réfléchir, ou peut-être que tu l'as déjà.
J'ai un morceau que j'aime beaucoup, dont je me dis en tant que musicien, ouais, c'est exactement le genre de morceau que j'aurais voulu écrire. Et tu vois, parce que c'est à la fois simple, je vois bien que c'est atteignable, parce qu'il y a plein de morceaux, on voudrait l'écrire, mais j'aurais été absolument incapable.
Ronnie La Taupe.
Ouais, Ronnie La Taupe, c'est bien ça. C'est un animal qui fait ça, non, c'est. Et puis le texte me paraît cool, et c'est une chanteuse qui s'appelle Greta Isaac.
Okay.
Ça s'écrit I-S-A-A-C. Et je crois que le morceau c'est Pessimiste. ou pessimistique, je sais plus. Et je trouve que c'est un morceau qui, je l'écoute et tout, ça me fait sentir heureux, ça me donne vraiment une sorte de sentiment de puissance en me disant, et pourtant le morceau est pas si compliqué que ça, et en même temps il fourmille de bonnes idées.
Voilà. Tu le mettrais dans quelle playlist ça du coup?
Dans la playlist de genre, rappelle-toi que la vie c'est en fait ça défonce. Parce qu'en plus le texte dit vraiment à quelqu'un genre qui pense que, oh là là, je suis nul, genre arrête de saouler. Et donc je trouve que c'est un bon cheer-up song.
Le morceau s'appelle Pessimiste, effectivement. Pessimiste. Greta Isaac, on s'écoute ça. Mais plutôt la patate, très pop.
C'est pour vendre des iPhones, ça.
C'est pour vendre des.
Non, mais ça sonoriserait bien une pub Apple, tu vois.
C'est vrai. Genre, je viens d'acheter mon nouvel iPhone, je suis très heureux.
Mais pour la partie musicale, c'est ou des AirPods ou des trucs comme ça.
Non, j'ai un truc très très pop.
Ouais. Bah, c'est cool. Il faut.
Vous allez bien vous entendre.
Toi, Daz.
Alors, histoire de changer un peu de spectre musical par rapport à toutes mes recos.
Ouais.
Non, on va s'écouter comme d'habitude du hip hop. Là, c'est un morceau de 2009 qui s'appelle Weather. Comme plus okay. mouillé.
Ok.
Parce que je suis retombé dessus, en fait, un peu par hasard. C'est Twista, donc, qui était un rappeur de Chicago pendant longtemps, détenteur du Guinness World Record du nombre de mots dans une seule phrase. Okay. Parce qu'il rappait très très vite.
D'accord.
Bon, là, il a un peu ralenti pour qu'on puisse quand même comprendre ce qu'il dit. Et c'est toujours. Enfin, Twista, c'est un peu. Un des artistes clés du hip-hop américain, quoi. Donc, toujours plaisir.
Weather, Twista.
Weather.
Et je vois Erika Chevon aussi.
Oui, pardon. Et évidemment, Erika Chevon, qui est sur tout le morceau, puisque c'est la personne qui fait les chœurs.
Allez, on s'écoute ça. I'm calling you daddy. Daddy, can you be my daddy? Daddy, I need a daddy. Daddy. Won't you be my daddy, daddy? Come and make it rain down on me. Come and make it rain down on me. Nah, come and kick it with a twister. Caddy Mac Daddy with a hoe up in the backseat with a 97 pimp flow. Got a feeling when you smoke it when I'm flipping to a track speed. Talking about a beautiful figure, astonishing as Greek mythology. Body be just like a girl in the. What's that movie? Never mind. Let me enter your atmosphere as you enter my world and let me touch that booty. I can't believe that your mama that cold. Her daughter got such an astonishing soul. You need a modeling role. Still a player, know you got it when you climb up from the bottom to the top of the pole. Plus you can pop a control. Your fatty's so accurate when I'm smacking it. It's making me say what I gotta do to get with that. When it come to making it rain, I can get it wet. When it come to cutting that monkey, I can get it wet. You want some media, baby, you need a better man. He cover politics, I'ma be your weatherman. Cause every time I'm looking up and I see more ass, I'ma constantly see rain in the forecast. This away, that away, I'm flicking 5,000 ones or whatever you wanna call it. It's a celebration, you the champion, here's the Fetty confetti. Come on and get drunk with the money, hold it. You can do better. I done been where, but I can get
très cool.
Ce petit refrain là, bien efficace. Ouais.
Très très cool.
Électrique, la basse c'est sympathique.
Petit clavier en stéréo là, c'était très bien aussi.
Legendary Traxter à la prod, donc un gars aussi qui pèse, qui pesait en tout cas. Je sais pas s'il pèse toujours, mais en tout cas il a pesé avec No ID, Kanye West, ce genre de gens de Chicago.
Oui, des petites personnes.
Des petits, des petits artistes.
Exactement.
Bon, ouais, mais j'hésite entre deux trucs, soit un truc rap, soit un truc pop. Je vais sur quoi?
Ah oh bah alors là, c'est vous qui voyez.
Bon, ouais, je vais sur le truc rap, je garde le truc pop pour une autre fois.
Ok.
C'est du Azizi Gibson, ça te parle?
Pas du tout.
Je pense qu'il est anglais, probablement, je sais pas. Puisque j'ai découvert ça, tu sais que parfois c'est avec les séries et tout qu'on découvre des musiques, les films et compagnie.
Top Boy.
Et j'ai découvert ça dans Top Boy, absolument.
Évidemment.
Plutôt bonne série, Top Boy. Les deux premières saisons sont incroyables et le reste est pas mal du tout. Oui. J'encourage à regarder Top Boy.
Très très chouette, Top Boy.
Et donc c'est un morceau qui s'appelle High qui clôture un des épisodes. Je vais pas le mettre au tout début parce que, en fait, c'est un morceau qui s'apprécie dans la longueur, qui évolue assez peu et il évolue vers la fin. Donc je vais le mettre un peu plus vers la fin pour qu'on entende l'évolution, qui soit un peu moins chiant à écouter comme ça. Mais ça vaut le coup de l'écouter du début à la fin, voilà.
Azizi Gibson.
Azizi Gibson, absolument. Je regarderai, pendant qu'on va écouter, je vais regarder d'où il vient.
You won't forgive you for it, cause we was patient while you motherfuckers still ignored us. And we was trying to fight the system, you was begging for it. Everybody got together, we was ready for it. The government is going down in all kind of sorts. I'm here to tell you how it's going down. We don't want no violence, just hear us out. Got me like good God, I can't go, I let go. I'm a G, I'm a soldier. Got my trucks on the ground, I'm a OG. Funny, everybody used to judge me by the old me. Lord help me, ha, I can't see. But I know I'm about to be on TV. Cause they understand this and who we gon' be. Stop believing in your time, stop depending on speed. Lord help me. Good God, I can't cope, I let go. I'm a G, I'm a soldier. Got my chucks on the ground, I'm a OG. Funny, everybody used to judge me by the old me. Lord help me, ha, I can't see. But I know I'm about to be on DV. Cause they understand us and who we gon' be. Stop believing in your time, stop depending on speed. Lord help me.
D'accent anglais en tout cas.
Non, en fait il est né en Allemagne, mais il est d'origine américaine et du Congo.
Fils de militaire.
Si
fils de militaire. Généralement c'est ça. Hein.
T'as déduit très très vite.
Ouais, bah, l'Allemagne, les Américains nés en Allemagne, généralement à Francfort, sur la base de je sais plus quoi, là, de Rammstein ou je sais pas quoi. On connaît.
Et
très bien.
C'est bien. Hein.
Ouais, franchement.
Et en fait, là, c'est un peu dommage. J'ai mis la fin où en fait où ça prend une dimension encore, etc. Mais en fait, tout le jeu du morceau, c'est de commencer très tranquillement. Il y a juste la base derrière. Tu vois un peu RPG, tout, comme ça. Et puis il rappe, etc. C'est très constant jusqu'à la fin où ça prend cette ampleur. Là, ça explose et tout.
Là, il y avait les chœurs et tout. D'un coup, on se dit, ça change d'accord et tout.
Ça, c'était très bien. Bon.
Eh bien, très bonne reco, comme d'habitude dans cette émission, je serais tenté de dire.
Eh ben, bonne reco, bonne émission, bons animateurs, bon technicien. Flavien a assuré tout seul la technique aujourd'hui.
Et ça marche, hein. Donc on se rend compte que la bouclette, ils vont pouvoir licencier des gens pour essayer de faire des économies parce que ça marche avec une personne.
Donc, surtout qu'il fait ça plus éteindre l'alarme, hein. Donc,
incroyable.
Multitâche.
Il nous dit on n'a pas vu les rushs encore, faut pas qu'on parle trop très. On remercie également François évidemment aussi pour le montage.
Super.
Pareil, toujours constant le travail de
bien sûr François, toujours présent.
Un merci aussi à Thomann bien entendu, grâce à qui on fait cette émission. Ça t'arrive d'acheter chez Thomann, Thomas?
Ça m'arrive, parce que quel musicien n'achète pas chez Thomann?
C'est le genre de réponse qu'on aime. Voilà,
on rappelle qu'à chaque fois, il n'y a aucune incentive.
On n'en parle jamais avant.
Bien sûr que non. Je veux dire, on ne force pas nos invités.
On les paye juste en chocobon.
Exactement, ouais.
Ah oui, merci Thomann. Merci la bouclette du coup, Flav. Merci François. Merci la vie.
Absolument.
Merci Thomas. Thomann, Thomas.
Exactement. Elle est. Allez suivre le travail de Thomas Legon, vous tapez sur internet, allez voir Filset aussi si vous êtes dans la région, dans le coin, vous pouvez aller voir des concerts là-bas ou faire des ateliers.
Je le rappelle, 77, Val d'Europe, bien sûr, RER A.
Et même si vous faites de la musique, n'hésitez pas, et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, voilà, passez un coup de fil, envoyez un mail, parce qu'on est là aussi pour que vous puissiez faire du bruit sans déranger personne avec des instruments et découvrir la passion de jouer sur scène.
Super, et puis... Puis nous, on se retrouve dans 15 jours, vous le savez.
Attends.
Dis-moi.
Il faut le message. Mettez des étoiles.
Mais oui, on a commencé avec ça, mais on le redit.
Tels
en vrai, c'est important.
Tels des guerriers ninja, des petites étoiles comme ça. Mettez-en beaucoup.
En vrai, quelle émission où fait 2h30 avec Willy Badarou, après fait 2h avec un sociologue pour parler du goût en musique avec Thomas Logon. Franchement, hein, avant ça, on avait fait sur le genre dans le rap avec Piche, drag queen et rappeuse. Enfin voilà. Bon.
Ouais.
Qui fait ce genre d'émission?
Personne. Mais personne, ça
doit tenir.
Personne.
Allez, on se retrouve dans
deux semaines. Bye. Ciao.
Bye. Ciao.